Bonsoir, bienvenue à l'espace Mendès France. Ce soir, dans le cadre d'une exposition qu'on présente sur le réchauffement climatique à l'espace Mendès France, j'ai le plaisir d'accueillir donc Valérie Masson-Delmotte, qui est directeur de recherche au laboratoire de sciences du climat et de l'environnement à Gif-sur-Yvette. Donc, il va nous faire son exposé, puis ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions. Je pense que Valérie Masson-Delmotte est une spécialiste du climat et pourra répondre à une grande partie de vos questions. Voilà, je laisse dès à présent la parole.
Merci. Alors le climat, on a un peu de mal à éviter d'en entendre parler. D'abord, vous avez l'opportunité de voir cette belle exposition. Il me semble que c'est la plus complète que j'ai vue à ce jour au niveau de ce qu'on appelle les sciences du climat. Et puis finalement, ces sciences du climat, c'est aussi la base d'un débat de société, de négociations internationales qui sont d'actualité, avec le sommet de Copenhague dont on sent une certaine pression monter à mesure que son ouverture se rapproche. Et en ligne, juste en guise de préambule, donc je vous montre cette magnifique photo du bord de la calotte du Groenland, à l'ouest du Groenland, un endroit qui s'appelle Kangerlussuaq. Sachant que je travaille sur l'histoire du climat enregistrée dans ces glaces, un peu plus loin parce que là, en fait, c'est trop côtier, il fait trop chaud et c'est pas exploitable. Cette photo avait été prise l'été 2008 et il faisait 25 degrés à cet endroit-là. Et à la fin de la présentation, je reviendrai sur un point qui est important, qui est le point que je note ici en préambule. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui a été adoptée par tous les pays du monde, pas comme le protocole de Kyoto, hein, mais simplement cette Convention cadre, elle a explicité le point suivant. Elle s'est fixée comme objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à un niveau qui éviterait une interférence anthropique dangereuse avec le système climatique. Et quelque part, ce que je souhaite faire avec cette présentation, c'est dresser un état des lieux de ce qu'on comprend des interactions entre le cycle du carbone et le climat, et certains des éléments qui permettent de définir vers quoi on devrait aller. Sachant qu'il y a une question qui n'est pas une question scientifique, qui est une question éthique, qu'est-ce qu'on appelle dangereux ? Alors la machine climatique, qu'est-ce que c'est ? Donc, ce que je vous montre là, c'est une image de la Terre vue en lumière infrarouge depuis l'espace. Alors vous savez que la Terre est chauffée par le Soleil, qui est son moteur, et puis ensuite elle échange du rayonnement avec l'espace, hein, donc les surfaces blanches, comme la neige ou la glace, réfléchissent une partie de ce rayonnement solaire. La surface des océans des continents se réchauffe, et tout corps chaud émet un rayonnement vers l'espace. C'est un rayonnement infrarouge, donc ce sont des fausses couleurs qui vous permettent de visualiser ce rayonnement-là. Et vous voyez par exemple cette bande très sombre, c'est les énormes pertes de chaleur du côté du Sahara, un endroit en fait très chaud d'abord, donc qui perd beaucoup de chaleur, et puis aussi en fait un endroit très sec. Et dans cette zone-là, il y a peu de nuages, il y a peu de vapeur d'eau, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Donc à cet endroit-là, l'atmosphère elle est assez transparente au rayonnement infrarouge, et une grande quantité part vers l'espace. Donc ça me sert à montrer que, naturellement, on a des gaz présents dans l'atmosphère, la vapeur d'eau, qui est le premier gaz à effet de serre, mais d'autres qui sont présents en quantité infinitésimale, le dioxyde de carbone, le méthane, vous en avez tous entendu parler, qui ont une propriété qui est spectaculaire. Quand on a un rayonnement infrarouge qui arrive depuis la surface des continents ou des océans, ces molécules se mettent à vibrer, elles se réchauffent et elles réémettent à leur température en haut de l'atmosphère un rayonnement infrarouge plus petit vers la surface et vers l'espace. Et c'est ce mécanisme physique-là qui fait de notre planète une planète assez unique, puisqu'on ne connaît pour l'instant pas d'autres planètes vivables. C'est cet équilibre subtil entre la position qu'on a près du Soleil, juste la bonne quantité d'ensoleillement, et puis la composition de l'atmosphère, juste la bonne température pour avoir de l'eau liquide et permettre la vie. Souvent on entend dire la température moyenne d'une planète, ça n'a pas de sens. En fait si, en termes d'équilibre radiatif, ça a un sens extrêmement important en physique, parce que c'est le résultat de la quantité d'énergie qu'on reçoit et de celle qu'on perd. Donc c'est une variable qui est extrêmement pertinente. Alors une petite histoire des sciences du climat. Ouais, alors j'ai essayé de trouver la plus vieille référence possible où les anciens avaient pensé le climat et pensé le changement de climat. Alors, les premières mesures climatiques, ce sont les Égyptiens qui les avaient faites. Ils relevaient les crues du Nil sur des nilomètres. Alors, en fait, c'était un peu des marches d'escalier. Hein. Donc, ils relevaient les niveaux du Nil. Et ils l'ont relevé pendant très longtemps. Et donc, ils ont observé qu'il y avait des variations. Ils ont quantifié, finalement, les variations de mousson, quelque part. Le terme climat vient du grec. Le mot climat veut dire l'inclinaison des rayons du soleil, parce que les Grecs étaient de grands observateurs. Et ils avaient donc observé que selon les saisons et selon la latitude, c'est la quantité d'énergie solaire qu'on reçoit qui explique les contrastes de température. Et dans les météorologiques, Aristote écrit il y a très longtemps, de même que l'hiver survient dans les saisons de l'année, ainsi au cours d'une longue période de temps survient un grand hiver. Alors les petits pointillés, c'est parce qu'il disait aussi, et une grande abondance de pluie, parce qu'en fait en Méditerranée, les hivers sont humides. Voilà. Ces phénomènes se produisent si progressivement et si graduellement, et pendant des périodes de temps si longues par rapport à notre vie, qu'ils passent inaperçus, et avant qu'on puisse les enregistrer du début à la fin, des nations entières périssent ou sont détruites. Et donc je pense que ça, c'est issu d'une tradition orale, de récits anciens, de l'impact de petites fluctuations du climat, mémorables, sur les sociétés humaines. Alors c'est un peu tombé dans l'oubli. C'est ressorti au Moyen-Âge, hein, ces réflexions sur le climat. Et puis la première révolution, c'est la mesure météorologique. Simplement avoir des instruments de mesure, les thermomètres, des réseaux météorologiques au XIXe siècle, et puis un suivi global avec les satellites depuis en gros 1975. Donc aujourd'hui, on sait suivre vraiment le climat au sens global. Ça a mis du temps. Et au niveau des mesures météorologiques, on n'a que 120 ans de mesures à grande échelle. Dans certains cas, en Europe, bien plus longtemps, hein, jusque 350 ans de données météorologiques au centre de l'Angleterre. Les Anglais ont une longue tradition d'observation, en fait, un peu plus longue que la nôtre. L'autre révolution, c'est la physique. Comprendre comment marche l'atmosphère, comment marche l'océan, qu'est-ce qui met les fluides en mouvement, quel est le rôle de la rotation de la Terre, pourquoi l'air chaud monte, donc la thermodynamique, comment le fait de former un nuage relargue de la chaleur dans l'atmosphère et contribue à la mettre en mouvement. Donc le cycle de l'eau. Tout ça, c'est des choses qui sont ajoutées au XIXe siècle. Et puis les transferts radiatifs, et vous avez tous entendu parler d'Arrhenius, certainement qui était un des premiers à avoir fait ce qu'il appelait des calculs ennuyeux de coin de table, où il calculait ce qu'on brûlait comme charbon, ce que ça ferait comme rejet de CO2, et puis il essayait d'estimer l'effet que ça aurait sur le climat. Alors ces calculs, on a montré qu'ils étaient faux, mais on retombe sur les mêmes ordres de grandeur aujourd'hui. Et puis, au XXe siècle, je pense que moi j'ai quelques repères clés. Il y a d'abord petit à petit la connaissance des climats du passé. Le fait que le climat a changé, mais ça on le savait, hein, les naturalistes l'avaient mis en évidence, mais de combien et quand ? C'est-à-dire quantifier, dater pour comprendre. Les sciences du climat, c'est une science qui n'est pas que de la prévision, qui est de l'observation, et qui est aussi l'étude des situations passées pour comprendre comment ce climat réagit finalement à des perturbations. Et puis également donc, la mise en équation avec les supercalculateurs, et dès la dernière guerre mondiale, les premiers calculateurs en fait, hein, ont été utilisés pour les prévisions météo. Et puis à mesure que leur puissance de calcul a augmenté pour le climat, au sens atmosphère, océan, etc. Donc les deux étapes importantes, c'est comprendre ce qui a fait varier le climat au cours du temps et le mettre en équation, tester ces modèles pour arriver à prévoir les risques climatiques futurs. Alors on dit souvent que les sciences du climat, c'est une science jeune, donc Aristote, hein, plus de 2000 ans. Alors la physique du climat, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est ce système complexe qu'on étudie, donc qui comporte l'atmosphère et tous ses constituants, donc le cycle de l'eau, les gaz à effet de serre et puis sa composition chimique. Donc ça inclut les nuages, l'océan, donc la banquise, qui est de l'eau de mer gelée, ce qui se passe à la surface des continents, donc là c'est vraiment très schématisé, hein, donc le type de végétation qu'on a, l'extension de la cryosphère, hein, les glaciers, les calottes de neige et de glace, et puis ce cycle de l'eau continentale. Et ce système-là, qu'est-ce qu'il exclut ? Il exclut par exemple la Terre interne. On considère que la tectonique des plaques, que le volcanisme, c'est extérieur au climat, que c'est une perturbation extérieure. Et le climat va y réagir. Ça exclut également l'homme, en fait. Hein. Donc nous, on est considérés comme extérieurs à ce système. Et quand on fait des modifications à grande échelle de surface des continents ou de composition atmosphérique, on agit et on perturbe cette machine du climat. Donc notre jargon de climatologue, il introduit la notion de forçage externe, c'est-à-dire les perturbations qui s'exercent sur ce système, et puis la notion de couplage, donc l'océan et l'atmosphère, tout seul, s'échangent de la masse, de la chaleur, de l'eau, et sans que rien ne change, peuvent générer une variabilité. Vous avez peut-être entendu parler du phénomène El Niño, qui est un phénomène de réchauffement des eaux dans l'océan Pacifique. C'est quelque chose qui se produit spontanément, qu'on n'arrive pas à prévoir, on n'arrive pas à dire en 2012 on aura un événement El Niño, mais une fois que ça commence à se déclencher, on arrive bien à prévoir la suite des événements. Il y a un événement El Niño qui démarre actuellement, qui n'a pas l'air d'une grande amplitude, et ça a des impacts à grande échelle, mais c'est intrinsèque au climat, hein, c'est pas une perturbation qui le génère. Et puis donc il y a des rétroactions. Alors, pour donner un exemple de rétroaction, pour une raison X, la température augmente. Alors l'atmosphère, quand elle est plus chaude, elle peut contenir plus de vapeur d'eau, qui est un gaz à effet de serre. Un climat plus chaud, bah, c'est moins de neige, moins de glace. On réfléchit moins le rayonnement du soleil vers l'espace, donc ça amplifie le réchauffement. Donc on a de cette manière-là un certain nombre de rétroactions positives, c'est-à-dire qui amplifient la perturbation. Puis on a quelques rétroactions négatives. Alors un exemple, bah, quand vous avez un corps qui est plus chaud, il émet plus de rayonnement infrarouge vers l'espace. Hein, donc petit à petit, bah, sa température se stabilise. C'est une des grosses rétroactions stabilisatrices. Et puis l'histoire du climat nous montre aussi qu'il y a des effets de seuil. C'est-à-dire que parfois vous avez une perturbation qui est progressive, mais la réponse elle peut être brutale. C'est par exemple le cas des courants marins dans l'Atlantique du Nord, dont on a montré par l'étude des climats du passé et par la modélisation qu'ils pouvaient réagir brutalement. Et donc on distingue en fait deux termes, hein, qui est la variabilité du climat, c'est-à-dire ce qui se passe naturellement, et le changement du climat, c'est le terme qu'on utilise en général par rapport à ce qui est induit par les activités humaines. Donc vous pouvez poser la question, mais est-ce qu'il y a vraiment un changement de climat? C'est-à-dire, est-ce que on est sorti de la variabilité naturelle? Et c'est une des questions à laquelle le groupe d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, essaie de répondre. Alors les constantes de temps de ce système-là, alors il y en a qui nous dépassent de très loin, et puis d'autres qui sont plus courtes. Donc c'est exprimé en années, donc ça va de l'échelle de centaines de millions d'années à l'échelle inférieure à une année. Donc les variations lentes, c'est le vieillissement de notre étoile, et puis l'activité du Soleil qui présente des cycles de 11 ans, de 70, 80 ans, qui modulent très faiblement la quantité d'énergie solaire qu'on reçoit. Vous avez l'orbite terrestre qui change tous les 19, 23, 40, 100, 400 000 ans. La position de la Terre sur son orbite, qui module l'ensoleillement selon les latitudes et les saisons, et ça fait intervenir des ordres de grandeur très très importants, des dizaines de watts par mètre carré, mais en moyenne, pour toute la planète, ça fait zéro. C'est-à-dire que ça ne fait que répartir l'ensoleillement, ça ne change pas en moyenne annuelle pour toute la Terre, la quantité d'énergie, c'est juste sa répartition qui change. Alors vous avez des forçages géologiques, à longues échelles de temps, la dérive des continents. Quand vous avez les continents en position tropicale ou polaire, ça change beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas faire de calotte dans un cas et vous pouvez en faire dans l'autre cas. La formation des montagnes, les variations de niveau marin ont un effet sur le climat, local, jusqu'à grande échelle. C'est par exemple le cas de la montée du Tibet, qui a entraîné la mise en place des moussons en Asie du Sud-Est. Et puis vous avez le volcanisme, qui joue à des échelles de temps très variables. Vous avez les épisodes de formation de trappes, dont on sait qu'ils jouent sur des échelles de temps de l'ordre peut-être de 10 000 à 100 000 ans, voire plus, sur la composition de l'atmosphère, sa teneur en CO2, l'érosion. Et vous avez des épisodes volcaniques rapides, comme on a actuellement de temps en temps une grosse explosion. La dernière en 1991, le Pinatubo, ça met des petites poussières dans l'atmosphère, ça fait un effet de parasol, puis ça change la formation des nuages, et ça a un effet pendant 1-2 ans, peut-être jusque 10 ans avec la mémoire de l'océan de surface. Ensuite, le climat lui-même a la capacité de réagir et de créer des oscillations sans que rien ne change autour de lui. Alors quand on considère la formation des calottes de glace, on a des constantes de temps qui vont de, en gros, de 100 000 ans à... Là, on avait écrit 100 ans à l'époque, mais on se rend compte que ça peut réagir un peu plus vite que ce qu'on pensait. Donc peut-être un peu plus, aller un petit peu plus vers les réactions rapides des calottes de glace. L'atmosphère et l'océan, donc le temps que mettent des masses d'eau à traverser l'ensemble des océans, plonger dans l'Atlantique du Nord, tapisser le fond des océans et ressurgir autour de l'Antarctique et reboucler cette grande boucle, c'est plusieurs siècles. Ça vous montre aussi à quel point on a un système qui réagit, ça amortit les changements, mais en même temps, ça leur donne ça augmente leur durée. Donc aujourd'hui, on forme des eaux chaudes dans l'Atlantique du Nord, elles vont ressurgir dans plusieurs siècles et relarguer ce surplus de chaleur. Donc ça veut dire que toute perturbation sur le système climatique, elle aura une durée de vie de quelques siècles. Et puis, on a l'atmosphère, alors ça c'est la composante rapide. L'atmosphère à la surface des continents, une constante de temps de l'ordre de, vous savez, l'heure pour les événements météorologiques. Et puis, on donne souvent la dizaine d'années, c'est la mémoire en fait de la formation de la neige, du remplissage d'eau dans les sols, qui entraîne une certaine mémoire au niveau des surfaces continentales. Et puis donc il y a l'intrus, nous, à travers nos activités, donc modification de la composition de l'atmosphère, culture à grande échelle, donc modification de l'utilisation des sols, et on estime qu'on pèse sur la composition de l'atmosphère globale et le climat sur une période de temps qui est essentiellement la période industrielle. Et je reviendrai dessus par la suite. Il y a une controverse ou une... Il y a des discussions entre archéologues et paléoclimatologues pour savoir si l'agriculture des derniers millénaires a pu avoir un effet à grande échelle sur la composition de l'atmosphère ou pas. Mais de toute manière, ce sont des ordres de grandeur relativement faibles, donc on pense que ça n'a pas joué sur le climat. Voilà. Pour être précise, la riziculture, depuis à peu près 2-3 000 ans, a pu être une source de méthane, non négligeable, sur 2-3 000 ans. Alors, le cycle du carbone est perturbé par les activités humaines, et je veux juste donner tout de suite quelques chiffres clés. J'ai pas pris les chiffres les plus à jour, ce sont ceux de 2003, ils sont en train d'être mis à jour, mais ça vous donne un ordre de grandeur qui est tout à fait pertinent. Donc ce sont les tonnes de CO2 rejetées chaque année par personne, en 1990, l'année de référence du protocole de Kyoto, et puis là en 2003, il y a quelques années. Donc vous avez les champions du monde toutes catégories, donc États-Unis, Australie, Canada, qui émettent plus de 15 tonnes de CO2 par personne et par an. D'ailleurs, ces trois pays-là ont eu beaucoup de mal à ratifier le protocole de Kyoto et les États-Unis ne l'ont toujours pas fait. Vous avez ensuite des pays comme la Russie qui ont des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui de l'ordre de 10 tonnes par an et par personne, c'est à peu près la moyenne européenne en fait. La Russie, il y a une forte diminution comme les nouveaux pays européens. C'est le changement de l'économie type soviétique à l'économie de marché. Il y a eu un effondrement de l'industrie lourde et un appauvrissement des populations qui s'est traduit par une baisse de la consommation énergétique. Vous avez ensuite des différences dans les pays développés qui dépendent de la manière dont l'énergie est produite. Donc vous avez le poids du nucléaire ou pas, par exemple, qui se traduit là. Des diminutions en Angleterre, en Allemagne, c'est centrales à gaz à la place de centrales à charbon pour la production électrique. Des diminutions en France, en Suède, en Suisse. Et puis donc des fortes augmentations dans les pays du Sud, que ce soit le Brésil, la Chine, l'Inde. La Chine aujourd'hui, pour le CO2 seul, est autour de 5 tonnes de CO2 par personne et par an. La France à 6. Vous voyez les ordres de grandeur. La ligne verte, elle vous montre ce qu'on peut estimer que les puits de carbone, végétation, sol et océan peuvent digérer par personne. C'est de l'ordre de 1 tonne 5. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est que chaque fois qu'on est au-dessus de cette ligne-là, on contribue à faire augmenter la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et vous voyez que dans beaucoup de pays émergents, on est déjà au-dessus de ce niveau-là. Alors, que devient le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère ? Alors, voilà. Donc, on émet... Alors, il y a plusieurs manières de mesurer ça. Soit on le mesure en tonnes de carbone ou en tonnes de CO2. Moi, c'est des tonnes de CO2. Il y a un facteur 3,6 entre les deux. Donc quand vous voyez les chiffres, regardez bien si c'est du carbone ou du CO2. C'est juste l'unité qui change. En 2008, donc là c'est le tout dernier chiffre qui a été rendu public cette semaine, on a émis 36 milliards de tonnes de CO2 au niveau mondial dans l'atmosphère. Ce sont pour 4/5 la production de ciment et les énergies fossiles, pétrole, gaz et pour la première fois le charbon qui est devenu la source d'énergie fossile la plus importante cette année. Et 1/5, la déforestation, donc c'est essentiellement Amérique du Sud et Indonésie, les deux zones où on a fait une déforestation importante. Et quand on brûle une forêt, d'abord on relargue le carbone qui était stocké dans la matière organique et on supprime un puits de carbone, si on ne reboise pas. Sur ces émissions de CO2, vous en avez 45% qui restent dans l'atmosphère, à peu près entre 25 et 30%, ça varie d'une année à l'autre, qui sont absorbés par les océans et par les continents. Un point à retenir, c'est que sur les derniers 40 ans, on a une baisse de l'efficacité de ces puits. C'est-à-dire, plus on met de CO2 dans l'atmosphère, moins ils sont capables d'en absorber une fraction similaire à l'année précédente. Donc, chaque puits augmente, mais pas aussi vite que nos émissions. Donc, on parle d'efficacité des puits. Et si vous allez regarder sur Wikipédia CO2, vous verrez le CO2 a une durée de vie de 100 ans dans l'atmosphère. C'est faux. En fait, il a une durée de vie bien plus longue, parce que ces deux puits qui sont les plus rapides saturent. Donc le surplus qui est dans l'atmosphère, il y reste longtemps. Les processus qui le digèrent, entre guillemets, sont des processus géologiques, sédimentaires, qui ont des constantes de temps lentes. On estime que sur ce qu'on met maintenant dans l'atmosphère, on en a à peu près 30% qui sera là dans 1000 ans, et 10% dans 10 000 ans, grossièrement. Hein, donc c'est quelque part un déchet à longue durée de vie. Alors comment ça marche pour le CO2 ? Eh ben, on a un réseau de suivi, comme on a un réseau de suivi des températures, on peut le mesurer. C'est des mesures automatiques par des instruments de type chromatographe ou des instruments laser maintenant, et également des norias de flacons qui voyagent d'une station à un laboratoire central. Alors je vous donne l'exemple de ce qui est mesuré par mes collègues dans le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Alors quelques exemples. Donc on a une station sur l'île d'Amsterdam, dans l'océan Austral, près de l'Antarctique. Et vous voyez qu'il y a peu de variations, ça augmente. On a une station ici qui est en Maesead, à l'ouest de l'Irlande, l'air le plus pur d'Europe. Donc c'est essentiellement une station océanique, assez loin des zones urbaines, en gros. On a des mesures au Puy-de-Dôme, donc en France c'est un endroit qui est également un peu loin des sources urbaines. Et puis on a une station à Gif-sur-Yvette dans l'Essonne, donc 10 millions d'habitants hein, dans l'Île-de-France, et puis qui tous les matins prennent leur voiture et tous les soirs. Extraordinaire de cette composition de l'atmosphère. Alors je vais vous montrer des enregistrements récents, puis ensuite anciens. Les enregistrements anciens viendront du Dôme C, au cœur de l'Antarctique, où on a les glaces les plus anciennes à ce jour. Alors, le récent. Alors, je suis désolée, il y a un peu d'anglais, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Donc, je traduis. Donc, ça, c'est le temps. Notre année de référence, ici, c'est 2005. Le passé est ici, le présent, là. C'est la période des derniers 10 000 ans. Donc, on est en période chaude, en période interglaciaire. Un climat qui est relativement stable. Et puis c'est l'émergence des civilisations, cette période des derniers millénaires. Alors si on regarde la composition atmosphérique en dioxyde de carbone, on voit qu'on a un niveau naturel autour de 260-280 parties par million, de faibles variations, et puis cette rupture complète il y a 200 ans. Donc vraiment une rupture de pente qui est spectaculaire. Si on regarde les variations de méthane, on a un niveau naturel autour de 700 parties par milliard, de faibles variations, c'est la petite augmentation pré-industrielle dont je parlais, dont on pense qu'elle peut être liée au début de la riziculture. Et puis également, cette rupture, depuis la période industrielle, l'élevage de grande échelle en particulier. Et donc pour le CO2, on est à 30% au-dessus du niveau naturel, pour le méthane, 2,5 fois le niveau naturel. Donc la première chose qu'on voit finalement quand on regarde l'atmosphère, c'est la main de l'homme. Il n'y a aucun doute sur l'origine anthropique de ces constituants, ce qui a amené certains scientifiques comme Paul Crutzen, qui est un prix Nobel de chimie, à suggérer un nouveau nom pour cette période géologique. Donc on est passé de l'Holocène, la période ennuyeuse de climat stable des derniers 10 000 ans, à cet Anthropocène qui est la première chose qu'on voit, c'est notre activité. Et puis si on regarde un petit peu plus longtemps vers le passé, donc le temps, c'est 800 000 ans vers le passé, et le présent, c'est le zéro. C'est ici 1996, précisément, le démarrage de notre forage. Vous avez les variations de la température au cœur de l'Antarctique, avec une succession de périodes chaudes, brèves, et de périodes glaciaires, tous les environ 100 000 ans, même si c'est jamais exactement 100 000 ans. La période actuelle est ici, hein, les derniers 11 000 ans de période chaude. Vous avez la concentration en dioxyde de carbone ici, et vous avez ce parallélisme entre les deux courbes, et également les variations de la composition de méthane. Alors premier point, donc les niveaux actuels sont sans précédent sur 800 000 ans, hein, donc on est vraiment complètement sorti de la gamme des variations de la composition de l'atmosphère. Deuxième point, le moteur des variations du climat, le moteur, hein, n'est pas dans la composition de l'atmosphère. Quand on regarde le détail des événements, on voit sans aucun doute que le moteur des grandes transitions d'une glaciation vers une période chaude, d'une période chaude vers une glaciation, il est dans les petites variations de l'orbite de notre planète et dans les variations de l'ensoleillement. Alors, c'est représenté de cette manière-là. Donc, on a des variations tous les 20 000 ans, des variations tous les 100 000 ans, puis une espèce de grande enveloppe avec des variations tous les 400 000 ans. Donc ça, c'est le déclencheur, mais vous voyez bien que l'histoire du climat, elle n'a rien à voir avec l'ensoleillement. Okay ? Ces deux courbes sont extrêmement différentes. Comment est-ce qu'on le comprend ? On le comprend de la manière suivante. Pour parvenir à une Terre glaciaire comme celle-ci, qu'est-ce qu'il faut ? Quelle est la recette ? En partant d'un climat chaud, il faut que les étés soient frais. La neige, elle tombe tous les ans sur les continents de l'hémisphère nord. Et elle fond tous les étés. Donc, quand l'orbite de la Terre change, quand on a des étés moins ensoleillés dans l'hémisphère nord, la neige qui était tombée en hiver ne fond pas en été. Puis il reneige par-dessus l'hiver suivant, ça ne fond pas l'été suivant, et etc. Et c'est comme ça que petit à petit, on accumule suffisamment de neige pour former ces gigantesques calottes de glace qui sont représentées ici. 120 mètres de niveau des mers de différence, c'est comme si on avait deux fois l'Antarctique en plus, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc une énorme calotte sur le nord de l'Amérique et une énorme calotte sur le nord de l'Europe. On pouvait aller à pied sec de la France à l'Angleterre, par exemple. Enfin, en traversant un grand fleuve, d'ailleurs. Donc on voit là, en fait, le mécanisme clé, il est dans ces variations d'orbite terrestre. Et si vous regardez la dernière glaciation, vous pouvez voir que c'est ce fort minimum d'énergie solaire qui en a été la cause. D'abord, la température antarctique baisse, et avec un petit retard, ensuite, le cycle du carbone réagit. L'océan se refroidit, peut stocker un peu plus de CO2, la biologie terrestre, les plantes, la biologie marine, le plancton, etc., sa sédimentation change, et on va enfouir du dioxyde de carbone essentiellement au fond des océans. Et très vite, ça va amplifier le changement climatique, ça va le propager à toutes les latitudes. Donc le message, il est de dire, le moteur, il est dans l'orbite terrestre, mais on a deux amplificateurs clés. Le premier, dans la composition de l'atmosphère. Donc quand le climat change, le cycle du carbone change et ça amplifie la perturbation. Et le deuxième, il est dans la présence de ces grosses calottes de glace, la banquise. Dès que le climat se refroidit, ça s'englace. Ça fait un effet de miroir, ça renvoie les rayonnements du soleil vers l'espace et ça amplifie le refroidissement. Vous voyez le système ? C'est encore une fois un système de rétroaction qui se mettent en place. Mais par contre, ça, on arrive à le simuler maintenant, à l'aide des mêmes modèles de climat que ce qu'on utilise pour le futur. Alors, pas encore 800 000 ans, parce qu'il y a un problème de ressources informatiques, mais un climat chaud, un climat glaciaire, un état intermédiaire, on arrive à le simuler et on arrive à montrer que à peu près la moitié de ces changements glaciaires interglaciaires sont liés à ces variations de gaz à effet de serre. Donc c'est important à retenir. C'est un amplificateur clé. Un dernier point, au niveau de la température moyenne de la Terre, il y a un facteur 2 avec ce qui se passe en Antarctique, en gros. C'est 5 degrés entre une glaciation et une période chaude, et ces grands changements-là se produisent sur des échelles de temps de l'ordre de 10 000 ans. Donc ça, c'est ce qui a façonné les écosystèmes, c'est ce à quoi les espèces vivantes savent s'adapter, lentement. C'est environ 5 degrés en 10 000 ans. Et on a eu des périodes plus chaudes qu'aujourd'hui au pôle, pas globalement, mais au pôle. En particulier, la dernière période interglaciaire, elle est importante. Un niveau des mers plus élevé qu'aujourd'hui de 4 à 6 mètres. Alors, je ne l'ai pas vu ici dans les îles atlantiques, mais par exemple, quand on va dans la Manche, dans les côtes d'Armor, on a des îles qui s'appellent les Sept Îles, qui sont des belles réserves ornithologiques. Et on a des plages émergées de cette période chaude qu'on appelle les Hémiens. 4 à 6 mètres au-dessus du niveau des mers. Depuis que j'ai montré ça à mes parents, eux qui ont une maison au niveau de la mer, ils ne me parlent plus de climat. Qu'est-ce que ça veut dire là ? Ça veut dire en fait quand l'Antarctique ou le Groenland subissent pendant plusieurs millénaires, pour des raisons naturelles, un réchauffement de l'ordre de 3 à 5 degrés, ça déglace. Et on en a donc la preuve par les climats du passé, que le fait que les calottes polaires réagissent à un réchauffement, c'est avéré. Alors, les longues échelles de temps. Donc vous aurez en janvier une conférence de Pierre Sépulcre qui va revenir dessus. Je voudrais juste dire une chose. quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on a eu 386 parties par million de CO2 dans l'atmosphère ? C'est une question en fait qu'un lycéen m'a posée. Parce que moi, j'avais montré mes travaux sur les glaces. Il m'a dit, mais la dernière fois qu'il y a eu autant de CO2, c'était quand ? Alors, en regardant dans les reconstructions, qui sont beaucoup moins précises à partir d'autres indices du climat, on se rend compte que la dernière fois qu'on a eu autour de 386 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, c'était probablement il y a 2 à 3 millions d'années. Et à l'époque, il n'y avait pas de glace au Groenland. Okay ? La dernière fois qu'on avait environ 450 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, ce qu'on aura dans 15 ans probablement, on essaie de regarder ça, c'était probablement à ce moment-là. Hein, c'est cette estimation ici. Alors, c'est entre 450 et, si on prend le milieu de cette enveloppe, 650. C'était il y a environ 34 millions d'années. Il n'y avait pas de glace en Antarctique non plus. Ça vous montre l'ordre de grandeur de la perturbation. Qu'est-ce qu'on fait ? Sur les longues échelles de temps, c'est un équilibre entre la Terre interne, la tectonique des plaques, le volcanisme, l'érosion, qui façonne l'atmosphère, sa concentration en CO2. Et le climat suit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On reprend ces ressources fossiles, on les met dans l'atmosphère très vite, et le climat va suivre, inéluctablement. Donc, contexte géologique, on modifie brutalement la composition de l'atmosphère. Physiquement, il n'y a aucun doute que le climat va s'ajuster à cette augmentation. La question, c'est de savoir de combien ça va bouger en combien de temps. Mais il n'y a aucun doute que, par la physique de l'atmosphère, que quand on rajoute des gaz à effet de serre, le climat réagit. On a montré un couplage étroit entre climat et cycle du carbone, qui n'est pas simple, hein, qui passe par le climat fait varier les puits de carbone, qui font varier la concentration de gaz à effet de serre, qui font varier le climat. Donc c'est un système couplé, complexe. Les changements naturels les plus intenses, ce sont les dernières glaciations. D'ailleurs, on en a de belles gravures dans les grottes du sud-ouest de la France. La même espèce que nous, Sapiens, a réussi finalement à s'installer sur tous les continents à la faveur de cette dernière glaciation, à s'en adapter avec quelques centaines de milliers de chasseurs-cueilleurs. Et le changement de température, hein, c'est de l'ordre de 5 degrés en 10 000 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Est-ce qu'on voit les changements du climat ? Alors, dans certaines régions, ils sont visibles. Vous avez là, en fait, le bord de la calotte du Groenland qui s'amincit, qui s'écoule plus vite, parce qu'il y fait un peu plus chaud. Seulement 1 degré de changement, essentiellement depuis 1993. Hein, c'est pas très vieux, là-bas. Et donc, cette calotte, en fait, s'écoule plus vite, s'amincit, puis on a toutes ces roches qui étaient avant couvertes par la glace, qui émergent. Donc là, ça se voit que ça change. Dans d'autres régions, c'est plus subtil, hein, parce que quelques dixièmes de degrés en plus, hein, ça façonne pas encore complètement nos écosystèmes, nos paysages. Si on regarde les tendances des températures entre 1958 et 2008, hein, voilà à quoi elles ressemblent. Donc vous avez globalement un réchauffement qui est plus marqué sur les continents que sur les océans. Alors c'est entre autres l'inertie thermique. Hein, c'est plus long de chauffer plusieurs kilomètres d'eau de mer que quelques centimètres de sol et puis l'air qui est au-dessus. On a également un réchauffement qui est plus marqué vers les pôles, du côté de l'Arctique, jusqu'à 2 degrés en 50 ans sur certaines régions, comme du côté du nord de l'Alaska. Également très marqué sur la péninsule de l'Antarctique et beaucoup moins clair sur l'intérieur du continent antarctique. Donc, le terme de réchauffement global, il est ambigu parce qu'il suggère que tout change au même rythme, avec la même vitesse, mais ce n'est pas vrai, en fait. Hein. Et retenez bien cette structure-là, hein, donc plus marqué continent que océan et plus marqué vers les pôles. Et dans quelques minutes, je vous montrerai ce qu'on peut calculer pour le changement climatique futur. Et vous verrez qu'on retrouve ces mêmes traits, mais bien sûr accentués. Alors, je vais passer ça. Juste pour vous montrer les toutes dernières estimations. Donc, ce sont celles de la NASA. Ce sont des estimations de la température, des changements de température. C'est exprimé en dixièmes de degré par rapport à une moyenne sur une période de référence. Donc vous voyez que les ordres de grandeur ici, hein, c'est un réchauffement sur le XXe siècle de 0,75 degrés. Donc c'est pas énorme, hein, même pas un degré. Un réchauffement qui s'est produit en deux vagues. Une première vague au début du XXe siècle, une phase de relative stabilisation et une deuxième vague de réchauffement. Et vous avez là l'estimation en novembre cette année de ce que pourrait être la moyenne de 2009, avec l'incertitude de ce que sera la température réelle en fait, de novembre et décembre. Donc en gros, vous avez 2/12 d'incertitude sur la moyenne de l'année. La dernière année fortement refroidi par rapport à la moyenne. C'était 1991-92, vous le voyez là ? C'est l'éruption du volcan Pinatubo. La dernière année très chaude, 1997, un événement El Niño très fort, avec un réchauffement très marqué au niveau de l'océan Pacifique, qui se marque sur la température globale. 2008, une année La Niña, donc plutôt un petit coup de froid, donc lié à la variabilité interne au climat, et une année un peu plus fraîche que les précédentes. Mais dans tous les cas, les années les plus chaudes des derniers 120 ans, elles sont dans les derniers 15 ans. Ce point-là, il est important à mesurer. Alors ça se réchauffe, donc on peut le voir, il y a des exemples dans l'exposition très parlants sur les dates des vendanges, par exemple, qui montrent les conséquences concrètes de ce réchauffement sur les milieux naturels. L'océan se réchauffe, donc se dilate, les glaciers de montagne fondent, pas tous, mais dans leur immense majorité ils fondent, certains gonflent parce qu'il neige plus. Donc c'est un équilibre entre la quantité de neige qui tombe et la fonte. Et ces deux facteurs-là, plus l'écoulement des glaces de l'Antarctique et du Groenland, font monter le niveau des mers. Grâce aux marégraphes, on a des estimations assez précises du niveau des mers sur en gros 100 ans. Donc on a cette augmentation qui n'est pas toujours régulière, avec une augmentation plus marquée, un plateau, puis une augmentation à nouveau un peu plus marquée. Donc vous voyez autour de 20 cm de montée du niveau des mers, 17 pour être précise, au XXe siècle. Et puis là, ce sont des mesures par satellite, avec un satellite qui s'appelle Topex Poséidon, qui mesure en permanence la hauteur de la mer, et qui vous montre un rythme d'augmentation qui s'est parfois un peu accéléré, parfois s'est un peu ralenti, repart à la hausse, et en moyenne est de 3 mm par an. Donc si on extrapole, c'est 30 cm par siècle, juste pour avoir un ordre de grandeur manipulable. Donc un niveau des mers qui monte, et aujourd'hui, ce qui est impressionnant, c'est que du côté de l'Antarctique, comme du côté du Groenland, on perd de la masse. Donc il y a 10 ans, je vous aurais dit on ne sait pas. Il y a 5 ans, je vous aurais dit peut-être. Et quand on regarde les estimations du bilan de masse, du total de masse par des mesures satellites pour l'Antarctique, on voit qu'on a une incertitude qui est très grande avant la période de mesures par satellite. Et on a, sans aucune ambiguïté, cette tendance à la perte de masse, essentiellement dans ce secteur de l'Antarctique de l'Ouest. Alors, ce n'est pas de la fonte, il fait trop froid. C'est essentiellement de la glace qui s'écoule plus vite. Donc des icebergs, en fait, qui rejoignent l'océan. Du côté du Groenland, assez peu de changements au centre. Une petite tendance à l'épaississement dans certaines zones du centre. Et sur tous les bords de la calotte, une fonte accélérée et un écoulement des glaciers qui glissent plus vite. Et donc un flux d'eau qui rejoint les océans. Et vous voyez cette évolution, là on est en fait dans les années 70, là on est en 90, et la dernière année ici c'est 2007, et vous voyez cette accélération de la perte de masse du Groenland. Et le Groenland à lui tout seul est la masse de glace qui contribue le plus aujourd'hui, environ un tiers, à la montée du niveau des mers. On ne savait pas que ça pouvait réagir aussi vite en fait. Alors ensuite, une autre question qui est importante est de savoir si cette variation qu'on a, ce réchauffement, pas tout à fait un degré au cours du dernier siècle, c'est quelque chose de récurrent. Est-ce que ça fait partie des rythmes naturels du climat ou est-ce que c'est autre chose? Et la grosse difficulté pour cela, c'est de prendre ces mesures météorologiques qui ont une incertitude de mesure, mais dont on sait la déterminer, et de les comparer à d'autres indices qu'on va tirer cette fois-ci des archives naturelles. Alors qu'est-ce qu'on prend? Les coraux, les carottes de glace, les cernes de croissance, les anneaux de croissance du bois, tout ce qu'on peut trouver avec un lien avec la température. En fait, c'est essentiellement sur les continents qu'on a des enregistrements, et ce sont essentiellement des processus biologiques, donc plutôt pendant la saison d'été, printemps-été. C'est assez difficile d'avoir des indices des températures d'hiver dans les systèmes naturels sur les continents. Tout ça pour avoir les bémols qu'il faut, pour vous expliquer pourquoi on a ce plat de spaghettis. Donc chaque courbe de couleur représente l'exercice d'un groupe d'auteurs différents. Il y a une dizaine d'années, le premier qui a publié ces travaux-là, c'est un Américain qui s'appelle Mike Mann, qui a produit une courbe qu'on a appelée la courbe en crosse de hockey. Bon, ça c'est une référence anglo-saxonne, Donc c'est une courbe qui est bleue en fait en haut, qui est très plate, avec une rupture ici. Donc les anglo-saxons le traduisaient avec la forme de cette crosse de hockey. D'autres travaux ont confirmé ce type d'allure, Et certains ont produit une amplitude en fait bien plus grande des variations de température sur les derniers siècles. Donc ça fait partie de l'incertitude, hein, pour le moment. Et ce que vous pouvez voir dans tous les cas, c'est que vous avez une phase relativement chaude entre en gros l'année 950 et l'année, bon, en étant large, 1300, suivie d'une phase froide en plusieurs vagues qui culmine au début du 19e siècle et ensuite qui donne place à ce réchauffement récent. Des variations qui sont faibles, de l'ordre de 1 degré au maximum. La valeur la plus probable, c'est autour de 1,5 degré, quand on considère toutes les incertitudes. Et pour finir, dans tous les cas, le réchauffement récent, qui ne dépasse cette gamme de variations naturelles que depuis en gros 1975. Donc, il semble qu'on sorte de la variabilité des derniers 2000 ans, mais seulement depuis en gros une trentaine d'années. Qu'est-ce qui fait varier le climat à cette échelle de temps-là ? Le surplus de gaz à effet de serre, il est responsable d'une augmentation essentiellement sur les derniers siècles, les derniers 200 ans. Et la perturbation en termes de rayonnement, en watts par mètre carré, elle n'est pas tout à fait linéaire avec la concentration de CO2. Hein, donc elle a cette forme de cette manière-là. Ensuite, on peut essayer d'estimer comment l'activité du Soleil a varié. Il y a une incertitude. Donc vous avez les fameux cycles de 11 ans du Soleil. Vous voyez une amplitude faible, hein, 0,2 watts par mètre carré, c'est petit. C'est présent, ça joue, mais c'est petit. Et une incertitude pour savoir si le Soleil en fait a une activité qui est relativement stable à l'échelle du siècle ou présente des variations à l'échelle du siècle un peu plus grandes. Donc les gens ont exploré cette gamme des possibles. Et puis on connaît la quantité de sulfate émise par les grosses éruptions volcaniques, toujours grâce aux carottes de glace en fait, ou à des données historiques. On connaît leur occurrence, vous voyez, vous avez des éruptions sensationnelles hein, à certains moments du passé. Celle-ci qui est un volcan inconnu dans les années, si je me souviens bien, au début des années 1300. Et vous avez le fameux volcan Tambora en 1815 qui avait émis des quantités spectaculaires de sulfate. Et vous voyez que lors d'une éruption volcanique, on perturbe les échanges de rayonnement de l'ordre de 3 watts par mètre carré, mais ça dure 1 ou 2 ans. Hein, ça n'a pas un effet long. Quand on prend des modèles de climat, qu'on prend en compte ces perturbations-là et qu'on leur fait calculer l'évolution des températures sur 2000 ans, ils simulent une période. Donc vous avez l'enveloppe des observations en gris, celle que j'ai montrée tout à l'heure, et les simulations en bleu. Donc une période un peu plus chaude, un petit peu plus tard que les données ne le montrent, autour du Moyen-Âge. Ensuite, une période plus froide. L'ordre de grandeur est à peu près correct. Hein, vous voyez, vous avez à peu près 1,5 degré de variation. On arrive bien à simuler les variations, par exemple, lié à cette éruption du Tambora, hein, ce coup de froid au début du 19e siècle qu'on a appelé par exemple l'année sans été en Europe. On simule un réchauffement au début du 20e siècle, un plateau au milieu du 20e siècle. Et là, ce sont des calculs que avec les facteurs naturels. Et là, avec les facteurs naturels plus l'augmentation des gaz à effet de serre et aussi les poussières d'origine humaine. Et vous voyez que avec les facteurs naturels, les modèles simulent un refroidissement. Et avec les facteurs naturels et anthropiques, un réchauffement qui est sur la bonne gamme par rapport aux observations. Alors c'est une sorte de démonstration par l'absurde. La fin du XXe siècle est plutôt plus volcanique que la moyenne. Donc on estime que les facteurs naturels auraient plutôt dû faire un léger refroidissement du climat. Et quand on prend en compte la somme des facteurs naturels et anthropiques, on arrive bien à expliquer l'ordre de grandeur du réchauffement. Alors ça, c'est un calcul qui est fait avec des modèles relativement simples de climat. Et on peut le faire avec des modèles à 3 dimensions, océan, atmosphère, vraiment complet. Chaque petit trait, c'est une simulation. Et la moyenne en bleu, c'est la moyenne de 22 modèles de climat. C'est une manière d'estimer l'incertitude. Et c'est le même calcul encore une fois. Facteur naturel seul, en noir les observations, en bleu les simulations, et plutôt une tendance au refroidissement sur la fin du XXe siècle, avec seulement les facteurs naturels. Et là, c'est la simulation complète de nouveau, où on regarde un peu en détail. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans les données météorologiques, on a des variations d'une décennie à l'autre que nos simulations ne représentent pas. Pourquoi ? Parce que nous, on part d'un état de référence vers les années 1850, aléatoire en fait, et on impose seulement éruption volcanique, soleil, augmentation des gaz à effet de serre. Donc il n'y a rien qui va vous faire que vous ayez la météorologie de l'année ou les courants marins de l'année. C'est le modèle génère sa propre variabilité. Donc on ne peut pas simuler ce genre d'événement-là, qui peut être dû à une certaine circulation atmosphérique, océanique, pendant une année, quelques années. On ne peut pas le faire correctement. Mais vous voyez que ce qui est lié aux grosses éruptions volcaniques, Agung, El Chichon, Pinatubo, parfois on a la bonne amplitude, parfois on surestime un peu l'effet, ça fait partie des incertitudes, mais les ordres de grandeur de réchauffement, on les a bien. Et plus important, les premières simulations d'évolution du climat, elles ont été publiées en 1980. Il y a longtemps déjà, hein, ça fait près de 30 ans. Et elles avaient montré, avant que ce réchauffement important-là soit observé, exactement l'ordre de grandeur, 0,15 à 0,3 degrés par 10 ans. Ce point-là, il est important. C'est-à-dire que le premier ordre, en gros, on l'a, mais quand une éruption volcanique se produit, quand l'activité du soleil change, ça module un peu la vitesse des changements. Alors ça, je passe. Donc un réchauffement qui est sans précédent depuis 2000 ans, c'est ce que les données montrent. Alors le terme exact, la formulation exacte du rapport du GIEC, c'est très probablement causé par les rejets humains de gaz à effet de serre qui deviennent dominants par rapport aux autres forçages naturels. Donc c'est une superposition de causes, mais avec le poids du surplus d'effet de serre qui devient plus important. Et puis un rythme de réchauffement qui avait été anticipé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour l'avenir ? Donc on ne peut pas extrapoler à partir des données du passé, on n'utilise aucune observation. C'est important de le voir. C'est-à-dire, ce sont des calculs qui ne se basent que sur des outils, qui sont des modèles informatiques, qui partent des lois de la physique, les équations de Navier-Stokes pour l'atmosphère, et puis certaines approximations. On aimerait bien ne faire que de la physique, mais on ne peut pas. Pourquoi ? Je vous expliquais que les nuages jouent un rôle important, par exemple. On n'arrive pas à calculer à l'échelle de la gouttelette d'eau ou du cristal de glace dans le nuage. On simplifie à l'échelle de nos cubes, 100 km par 100 km, l'effet de ces processus de petite échelle. On ne va pas calculer la turbulence de l'air à l'échelle de 5 km. On la représente de manière empirique. Donc, on introduit de l'incertitude. Et la seule manière qu'on a pu trouver d'estimer cette incertitude, c'est de comparer un grand nombre de modèles de climat, qui n'ont pas tous fait les mêmes hypothèses. Alors la taille des cubes, elle est à peu près celle-ci. Hein, donc vous voyez 4 cubes en gros pour l'Europe de l'Ouest. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ben, les Alpes, vous ne les voyez pas. Donc on ne va pas pouvoir résoudre tous les phénomènes locaux de vent, de précipitations qui sont liés au relief. On ne va pas pouvoir résoudre des tempêtes. On aimerait bien. Mais on ne résout pas les processus de petite échelle. Idem pour les ouragans et d'autres choses. Donc on peut voir une tendance dans le modèle sur les grosses instabilités, mais ça reste encore très différent de ce qu'est une vraie tempête de petite échelle. Alors un des défis pour les sciences du climat, c'est de passer de ces modèles globaux vers des modèles à l'échelle continentale, régionale, voire locale, pour arriver à raffiner les calculs à l'échelle humaine, à l'échelle du bassin versant, à l'échelle des agriculteurs, à l'échelle des phénomènes météorologiques locaux qui sont importants. Donc c'est en cours et ça fait partie des choses qui vont porter leurs fruits à l'échelle de 5 à 10 ans. Alors pour vous illustrer ça, voilà par exemple à quoi ressemblent des passages dépressionnaires dans un modèle de climat qui a été utilisé pour le dernier rapport du GIEC. Voilà ce que ça donnerait avec une résolution de 1 degré de latitude et de longitude. Vous voyez que là ça ressemble à ce que vous avez l'habitude de voir sur les images satellites dans les prévisions. Et voilà la réalité. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Hein. Ça vous permet de visualiser que tout ce qui est de petite échelle, on ne peut pas bien le résoudre. Si on voulait faire 100 ans de climat avec un modèle comme ça aujourd'hui, il faudrait faire des calculs pendant 2 ans et demi sur les ordinateurs les plus puissants qui existent. Donc pour le moment, c'est fait avec un modèle de ce type-là, avec en gros 2 semaines de calcul pour faire 100 ans de climat. Puis bon, les gens vont de plus en plus vers des résolutions qui augmentent, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire et pas faire pour le moment. Alors, voilà. Ensuite, pour estimer le risque du climat futur, il faut des hypothèses. Combien on sera ? Quelle énergie on utilisera ? Comment cette planète va suivre son développement ? Est-ce qu'il y aura des transferts de technologies des pays développés vers les pays émergents ? Est-ce qu'on utilisera plutôt du charbon ou des énergies renouvelables, pour caricaturer ? Et donc, en fait, on utilise des scénarios qui avaient été développés dans les années 90, avec des scénarios extrêmement optimistes, où, en termes de rejet de CO2, on arrive à les maîtriser dans les années 95, et puis à les faire diminuer sur la deuxième moitié du 21e siècle. Donc là, je parle de rejet de CO2, mais vous vous souvenez, sur ce qu'on met dans l'atmosphère, la moitié y reste chaque année. Donc si nos rejets sont constants, la concentration dans l'atmosphère, elle continue à augmenter, hein, même avec des rejets constants. Donc ça se traduit par des concentrations de CO2 sur cette courbe bleue qui irait vers un niveau de l'ordre de 2 fois le niveau naturel à horizon 2100, dans le scénario optimiste. Donc autour de 550 parties par million dans l'atmosphère. Et puis vous avez les calculs sur les scénarios qui étaient il y a quelques années jugés pessimistes. Moi j'appelais ça le scénario business as usual de l'administration Bush. Il faut que je revoie ma terminologie. Mais en gros, c'était simplement des calculs de prix d'énergie, c'est-à-dire on utilise le pétrole, le gaz, puis le charbon, à mesure de l'épuisement des ressources et des prix. Mais des réserves de charbon sont présentes en quantité colossale. Donc c'est pas le frein en tant que tel à l'émission de gaz à effet de serre. On est actuellement en fait ici, hein, pour vous donner un ordre de grandeur, sur les rejets de gaz à effet de serre. Et sur les concentrations de CO2, on est sur le scénario le plus haut. Donc dans ce cas-là, on va vers des concentrations quasiment 3 fois le niveau pré-industriel, plus de 800 parties par million à horizon 2100. Donc en fait, ce n'est pas forcément des scénarios réalistes, mais ça a la mission d'explorer la gamme des possibles. Et puis pour chaque scénario, on va faire une simulation climatique avec les 20 à 25 modèles de climat disponibles, et on va les comparer. Donc pour chaque scénario, on aura un scénario de changement de température. Alors c'est ce que je vous montre juste là. Alors ça démarre en 1900. De 1900 à 2000, on a la barre d'erreur qui correspond à la différence entre les différents modèles. Et vous voyez qu'il représente bien, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, le réchauffement observé au XXe siècle, et au début du XXIe d'ailleurs. Et puis pour la partie XXIe siècle, ce sont des projections. Alors premier calcul, si on arrête tout, si on mettait plus du tout de CO2 dans l'atmosphère, qu'est-ce qui se passerait ? Bah, la quantité qui est déjà présente, elle continuerait à faire changer le climat, et on aurait encore à peu près 0,5 degré de réchauffement qui petit à petit se stabiliserait. Donc un point important à voir, c'est que quoi qu'on fasse, le climat va changer. C'est une illusion de penser qu'on peut revenir en arrière. Deuxièmement, vous voyez que pour tous les scénarios précédents, les courbes sont confondues jusqu'à environ 2040. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quoi qu'on fasse en termes d'émissions de gaz à effet de serre, l'histoire du climat sur les prochains, en gros, 20 ans, elle est déjà dans l'atmosphère. On n'a pas la main dessus. La réalité ne ressemblera pas à ça. Qu'est-ce que ce sera la réalité ? Ce sera de temps en temps un événement El Niño plus chaud, un événement La Niña plus froid, une éruption volcanique un peu plus froid. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ce sera plus bruité. Mais c'est ce qu'on peut essayer de dessiner comme rythme d'augmentation. Là, c'est sur les prochains, en gros, 30 ans, un réchauffement de même amplitude que sur le dernier siècle. Donc ça s'accélère. Si on regarde après, en gros, 2050, les courbes divergent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le réchauffement après 2050, il dépend de ce qu'on fait maintenant. Il n'est pas écrit, il dépend de nous et de tous les habitants de cette planète. On peut encore agir maintenant. Si on attend 10 ans pour agir, ce sera plus dur. Donc, dans le cas le plus optimiste, on voit un réchauffement qui est de l'ordre de 1,8 degré au-dessus du climat du climat de 1990. Et dans ce cas-là, un réchauffement qui est de l'ordre de 3 degrés. Tout ça, ce sont les ordres de grandeur. Ce ne sont pas des scénarios catastrophes du tout. Par exemple, là, on n'a pas inclus le fait que quand le climat change, le cycle du carbone change. Par exemple, quand le climat change, l'océan absorbe un peu moins de carbone, la végétation dans les zones sèches, un peu moins. Si on le prend en compte, on rajoute à peu près 1 degré de réchauffement à chaque fois. Là. Hein ? Donc c'est important à prendre en compte. On ne sait pas encore modéliser l'effet du dégel du pergélisol. Est-ce que ça va relarguer du méthane ou pas ? On ne sait pas l'inclure pour le moment. Donc voilà la gamme des possibles. En termes de niveau des mers, la fonte des petits glaciers, le réchauffement des océans, ça donne des ordres de grandeur de 30 à 60 cm d'ici à 2100. Donc c'est le scénario minimum. Et on ne sait pas encore pour le moment calculer précisément à quelle vitesse les calottes de glace du Groenland ou de l'Antarctique peuvent s'écouler. Alors je crois que j'ai quelques ordres de grandeur, je vérifie juste. Non. Donc je vais juste les donner là. Donc en ce qui concerne le Groenland, les travaux publiés à ce jour, c'est-à-dire cette année, donc il y a quelqu'un qui a essayé de calculer, avec la vitesse actuelle d'écoulement des glaciers, combien ça peut mettre, quelle contribution ça peut faire en termes de niveau des mers. Dans ce cas-là, on arrive à un chiffre qui est de l'ordre de 1 mètre à 1 mètre 40 d'ici à 2100. C'est l'ordre de grandeur. Un niveau autour de 500 parties par million de CO2, inéluctablement, vous faites disparaître en quelques siècles toute la partie sud de la calotte du Groenland. Tous les modèles le montrent. Et dans ce cas-là, c'est un changement de niveau des mers qui est de l'ordre de 3 mètres à 4 mètres sur, en gros, 500 ans. Qui est la conséquence directe de ça, hein, au-delà de 2100. Donc c'est important de le voir. Même dans un scénario, entre guillemets, optimiste. Alors pourquoi est-ce qu'on a une dispersion entre les modèles de climat? Je veux juste le discuter ici. C'est important de le voir. Pourquoi est-ce qu'on a une barre d'erreur, finalement? Alors les modèles, ils sont tous d'accord sur l'effet de serre direct, la perturbation radiative directe. Ils sont à peu près tous d'accord pour dire que la baisse de l'extension de neige, de glace, va amplifier le processus. Là où la barre d'erreur augmente un peu, c'est par rapport aux rétroactions liées à la vapeur d'eau. Comme chaque modèle fait une certaine circulation de l'atmosphère un peu différente, elle sera un peu plus chaude et aura un peu plus de vapeur d'eau de manière différente dans les différentes régions. Donc on voit qu'on a une dispersion qui est de l'ordre de 1/10 de degré. Idem pour la circulation de l'océan et la manière dont l'océan absorbe de la chaleur, une certaine dispersion. Puis vous voyez que là, la grande dispersion qui est 1/4 degré entre modèles, c'est les nuages. Hein, donc une des questions, c'est est-ce qu'on sait représenter correctement l'effet des nuages sur les échanges de rayonnement? Qu'est-ce qu'on fait? On a lancé un ensemble de satellites pour suivre plus précisément avec des systèmes de LIDAR, donc des systèmes actifs d'envoi de rayonnement et de mesure de la réponse, pour sonder plus précisément la distribution en taille des gouttes d'eau, des cristaux de glace et leurs propriétés radiatives. Donc de ça, qu'est-ce qui va se passer? Des paramétrisations plus fines et une nouvelle génération de modèles de climat, mais ça va prendre plusieurs années. Donc le progrès, il est lent par rapport à ces processus difficiles à mesurer depuis la surface, hein, vous en conviendrez. Alors si on regarde d'ici à 2030, ce que montrent les modèles de climat, dans un scénario de fort réchauffement, 3 degrés en moyenne, ou dans un scénario de réchauffement autour de 1,8 degré, vous voyez que ces deux cartes se ressemblent. Okay, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Les prochaines décennies, quel que soit le scénario, vous avez la même allure de changement. Et qu'est-ce que c'est cette allure de changement? C'est de l'ordre de à peu près 1 degré en Europe de l'Ouest et jusque 2 degrés par rapport à en quelques décennies, hein, en plus dans l'Arctique. Donc vous avez encore une fois les continents qui se réchauffent plus vite que les océans et cette amplification polaire. Si on regarde à horizon 2100, dans le scénario de réchauffement de 3 degrés, voilà l'anomalie de température. Dans le scénario de réchauffement de 1,8 degré, voilà la carte. En gros, vous prenez la même, vous accentuez l'amplitude, vous avez les mêmes structures. C'est la physique du climat qui veut ça. Alors si je prends la carte du haut, c'est plus tranché, c'est plus facile à commenter. Un réchauffement moyen de 3 degrés, c'est autour de 3 degrés au niveau de... un peu moins de 3 degrés au niveau de l'océan austral, hein, plutôt moins que la moyenne, c'est celui qui a le plus d'inertie. Un réchauffement qui est beaucoup plus marqué sur les continents que les océans, de l'ordre de 4 degrés pour l'Antarctique, de l'ordre de 4 à 5 degrés pour l'Europe de l'Ouest, donc tout à fait important et bien au-dessus de la moyenne globale, et jusqu'à 8 degrés dans l'Arctique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les lignes d'égale température qui migrent vers le nord, les insectes, les animaux qui peuvent se déplacer, poissons, oiseaux qui suivent, et puis certains écosystèmes qui ont plus de mal à suivre. On parle des arbres, par exemple. Donc les forêts, le paysage de forêt sera sans aucun doute modifié. Vous avez également donc beaucoup de considérations pour l'agriculture en zone tropicale. Donc les rendements d'un grand nombre de céréales augmentent avec la température et puis au-delà d'un certain seuil s'effondrent. Donc pourquoi est-ce que, par exemple, la Commission européenne s'est fixé un seuil de 2 degrés de réchauffement à pas dépasser? C'est à partir de considérations sur la vitesse de déplacement de certaines espèces, à partir de considérations sur la production agricole, en particulier dans les zones équatoriales, et puis également par rapport à la fonte du Groenland et l'effet à grande échelle de niveau des mers. Ça, c'est le côté réaliste. Vous avez des gagnants et des perdants. C'est ça la grosse difficulté. Si vous êtes agriculteur en Russie, vous serez plutôt gagnant. Vous aurez une saison de croissance des plantes un peu allongée. Vous allez avoir de nouvelles routes maritimes, hein, on en a entendu parler. Cet été, la route du nord-est était ouverte, l'été dernier, la route du nord-ouest. Donc le recul de la banquise va complètement changer la physionomie de l'Arctique, va l'ouvrir en fait à une mondialisation du transport, va ouvrir de nouvelles zones pour l'exploration minière ou pétrolière, par exemple. Puis vous allez avoir des perdants, donc par exemple les zones de bord de mer, les grandes agglomérations qui sont sur des deltas, juste au niveau de la mer, les zones de mangroves, les récifs coralliens seront forcément atteints par un réchauffement de l'ordre de quelques degrés en zone tropicale. Il y a assez peu de doutes là-dessus. Également, plus on met de CO2 dans l'atmosphère, plus il y en a dans l'océan, plus l'océan s'acidifie. Il a déjà perdu 0,1 unité de pH. Là, c'est plutôt de l'ordre de 0,2 qui devrait perdre. On ne connaît pas encore bien les conséquences sur les écosystèmes marins. Donc c'est ça qui est enclenché. Ce sont des perturbations vraiment à grande échelle de la chimie des océans et des changements de température assez importants. Alors j'avais essayé de trouver quelques ordres de grandeur. Donc par exemple, 4 degrés en plus que Paris, c'est la température moyenne à Marseille. C'est agréable, Marseille. 4 degrés en plus de Marseille, il faut aller regarder en Algérie déjà, pour trouver une moyenne comparable. Alors évidemment, le climat, c'est pas que la température. Les degrés en plus ou en moins, c'est pas ça qui va forcément nous toucher directement. Ce qui va nous toucher le plus directement, je pense, c'est l'eau. Alors comment est-ce que ce changement de température il va jouer sur le cycle de l'eau ? Alors je représente ici de manière un peu synthétique. Ce qui est montré, c'est le changement de pluie pendant la saison sèche par degré de réchauffement. Plus c'est rouge, plus c'est sec. Alors qu'est-ce qui se passe ? Près de l'équateur, plus chaud, l'air chaud monte, plus de pluie, en gros. Puis ensuite, cet air chaud qui a perdu sa pluie, il redescend. C'est ce qui fait en gros les zones désertiques aujourd'hui. C'est cette cellule, qu'on appelle la cellule de Hadley, entre l'air chaud qui monte près de l'équateur et puis qui redescend sec des deux côtés de l'équateur. Et ben avec un climat plus chaud, cette cellule s'intensifie et on a une augmentation de l'aridité, où ça ? Dans les zones aujourd'hui semi-arides et dans toutes les zones de climat méditerranéen. Donc les zones qui sont déjà aujourd'hui un peu limites sur la gestion de l'eau, ça va diminuer. Et si vous regardez les ordres de grandeur, c'est de l'ordre de 10% de moins par degré de réchauffement. Vous mesurez ça avec 3 degrés de réchauffement en plus, c'est 30% de pluie en moins. Donc souvent, on entend dire, mais quelques degrés en plus, est-ce que c'est important ? Mais mécaniquement, par la simple circulation de l'atmosphère, c'est intimement lié changement de température et changement de cycle de l'eau. Si on regarde en Europe, donc en Europe, c'est des hivers plus doux, plus secs au sud, plus humide au nord, et des étés plus chauds et plus secs partout, pour l'Europe de l'Ouest. Vous savez qu'aujourd'hui, déjà, de temps en temps, on exporte l'eau du sud de la France à l'Espagne, par exemple. Donc vous imaginez la difficulté de maintenir cette zone-là, par exemple, du Maghreb, elle a une population qui est à plus de sa moitié, qui a moins de 15 ans. Vous baissez de 30% les ressources en eau ici, qu'est-ce qui se passe ? Ben par exemple, vous arrachez des oliviers. Les plantations d'oliviers, les distances entre arbres, elles sont issues d'un héritage historique par rapport aux nappes phréatiques. Donc dès que c'est plus sec, il faut arracher des oliviers. Puis un olivier, ça met longtemps à reporter des fruits. C'est ça ce que ça va faire. C'est-à-dire c'est un changement complet dans tout ce que finalement on a tiré de l'expérience du passé sur ce que sera le risque futur. Idem pour la gestion des sécheresses, idem pour la gestion des crues. Alors, on ne le voit pas sur ce graphique-là, mais c'est vraiment pervers la manière dont ça va jouer sur les pluies même ici. Ce qu'on va voir, en fait, c'est une augmentation des périodes longues sans pluie, ce que tous les modèles simulent, et à l'inverse, les mêmes quantités de précipitations, mais concentrées sur quelques événements de très forte pluie. Et ça, c'est lié à une atmosphère qui est plus chaude, qui contient plus d'humidité et qui est plus instable. Donc on peut avoir, dans la même région, une augmentation du risque de sécheresse, par exemple, en été, et du risque d'inondation à l'automne. Et c'est quelque chose qu'on voit déjà dans le sud-est de la France, avec les pluies de type Cévenol. On voit déjà cette tendance-là qui se dessine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pour s'adapter à ce changement climatique-là, à ce changement dans le régime des pluies, il faut sérieusement anticiper, il faut penser à la gestion de l'eau, qui sera un des éléments fondamentaux. Et si le prix Nobel de la paix il avait été donné en 2007 à Al Gore et au GIEC, pourquoi ? C'est parce que plus ce changement climatique-là sera brutal, plus il y aura des tensions, et essentiellement pour l'eau. Il y a la montée du niveau des mers qui va être lente, qui va être progressive. On en parle souvent comme la grande menace pour les déplacements de population. Moi, je pense que c'est le problème de l'eau qui va se voir de manière la plus criante. Donc le changement climatique futur, il y a une partie qui est inéluctable. C'est affreux à le dire, mais Il y a une partie qu'on a déjà mise dans l'atmosphère, quelque part, hein, qui n'est pas énorme, mais qui sera là. Nos projections, elles n'incluent pas les facteurs naturels, l'activité du soleil, le volcanisme, et pas forcément non plus l'état actuel du système. C'est-à-dire, on nous demande souvent, mais ok, ça, 2100, c'est important, mais demain, dans les prochains 5 ans, dans les prochains 10 ans, qu'est-ce qu'on peut attendre ? On ne peut pas le dire. C'est important de voir. On peut dessiner des tendances sur le long terme, mais pour vous dire ce qui se passera dans 10 ans, il faut connaître parfaitement l'état de l'océan aujourd'hui. On y travaille, mais ce n'est pas encore au point. Le taux de croissance du CO2, il est sur les scénarios les plus hauts. Alors, on a maintenant les estimations de ce que devraient être les émissions de CO2 en 2009. Et c'est un point qui est important. Avec cette crise économique qui est énorme, qui a frappé vraiment beaucoup de monde sur cette planète, a priori, les estimations des ventes des produits pétroliers, gaziers, etc., suggèrent qu'il y aura une baisse de l'ordre de 3% des émissions de CO2, ce qui est vraiment ridicule. Donc, même la crise économique n'aura pas réussi à changer cette tendance. Et ça, c'est un point qui est important à prendre en compte. Et les scénarios que j'ai montrés n'incluent pas les rétroactions du cycle du carbone. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à dire. On n'arrive pas à simuler correctement qu'est-ce qu'on pourra dire en termes de tempête, en termes de mousson. Et pourtant, ça joue tellement pour toute l'agriculture dans les pays tropicaux. On n'arrive pas à dire de choses précises sur, par exemple, les événements ENSO, sauf à dire un risque, non pas d'augmentation de fréquence d'El Niño, mais un risque d'augmentation des événements les plus intenses. Pour le niveau des mers, donc l'IPCC, le GIEC, fait état d'un risque entre 20 et 60 cm, mais avec les calottes, les derniers travaux suggèrent jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 40 d'ici à 2100. Alors cette montée du niveau des mers, elle ne sera pas égale non plus. C'est un point qui est important. Souvent, on s'imagine, comme pour la température, que ce sera global et que ça aura le même effet partout. Mais pour un réchauffement donné, ce sont les changements par rapport à la moyenne globale. Ce sera moins marqué sur l'océan Austral, qui est celui qui se réchauffe le moins vite. Okay. Et ce sera plus marqué du côté de l'Arctique, là où ça se réchauffe le plus vite. Du côté de la Manche, par exemple, on est plutôt au-dessus de la moyenne. Du côté de l'océan Atlantique, on est plutôt sur la moyenne. Donc ça, c'est un point qui est important quand on essaye de déterminer les conséquences. Et pour une région comme la secteur de l'océan Indien, c'est plutôt au-dessus de la moyenne. Donc ça, c'est un point important pour les pays riverains, dont certains sont très proches du niveau des mers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des impacts du changement climatique ? Ben, en fait, quand le climat change, la météo change. Et c'est ça qu'on va voir. Donc, on aura des changements dans les événements extrêmes, beaucoup moins de vagues de froid, mais de temps en temps, ce sera là, et beaucoup plus de vagues de chaleur, mécaniquement, en fait. Hein. Comme je vous le disais, plutôt une augmentation des phases sèches prolongées et des très fortes précipitations. Des changements dans la disponibilité de l'eau douce. Alors, je vous ai parlé de l'eau sous forme de pluie, mais il y a aussi le stock d'eau dans les glaciers. Qu'est-ce qui fait couler l'eau dans le Rhône en été ? C'est la fonte des glaciers dans les Alpes. Qu'est-ce qui remplit les fleuves asiatiques en dehors des saisons de mousson ? C'est la fonte des glaciers du Tibet. Hein, donc la neige tombe pendant la saison humide, et puis pendant le reste de l'année, ça alimente en eau de fonte. Idem en fait pour l'Amérique du Sud. Un grand nombre de pays sont tributaires de la fonte des glaciers pendant la saison sèche. Là, ça va être l'âge d'or de la fonte des glaciers, puis après, il n'y en aura plus. Donc la grosse difficulté, c'est qu'on aura plutôt une augmentation du débit de ces fleuves dans une phase transitoire, et puis après un assèchement. Compliqué de prendre des mesures d'adaptation quand on pense que sur 20 ans et les 20 ans suivants, le risque ne sera pas le même. Les zones côtières sont forcément à risque par rapport à la montée du niveau des mers, avec des difficultés très grandes de s'adapter. Pourquoi ? On pourrait se dire, c'est simple, le niveau de la mer monte, on fait des digues. Mais si vous faites des digues, vous freinez l'écoulement des rivières, donc vous augmentez le dépôt de sédiments derrière vos digues. Et puis comme vous freinez le dépôt de sédiments, vos côtes elles sont encore plus érodées. Parce que la mer elle érode les côtes, puis les rivières apportent du sédiment qui comble un peu. Donc le fait de mettre des digues ne résout pas l'ensemble des problèmes. Si vous regardez le Parlement français et le rapport du Sénat sur le changement climatique en France et ses conséquences, il y a le mot « sacrifier certaines régions ». Par exemple pour la Camargue. Parce que les remèdes peuvent être pires que le mal. Donc ça c'est un point qui est important. Il y aura des changements dans les écosystèmes, la productivité des forêts, l'agriculture, les ressources en pêche. Et je ne sais pas s'il y a des pêcheurs parmi vous, mais les gens me racontent déjà qu'on voit arriver en Méditerranée des espèces connues de l'océan Indien et qu'on voit arriver de temps en temps en Manche des espèces exotiques qui suivent en fait des courants chauds une année, un jour donné. Donc c'est assez intéressant pour les pêcheurs, mais ça témoigne que les écosystèmes ils suivent assez vite. ils suivent assez vite, sauf qu'il y a des zones qui n'ont pas de refuge. Donc plus vous allez vers l'Arctique, plus en fait vous allez avoir des espèces invasives qui vont s'y installer, et les espèces locales vont être éliminées dans cette compétition-là. Et puis un point important, c'est pas la canicule de 2003 qui a eu un effet sur la mortalité des gens en tant que telle, c'est surtout la dégradation de la qualité de l'air. Pendant les vagues de chaleur en été, près des grandes villes, avec le trafic automobile, on augmente la concentration d'ozone troposphérique, donc d'ozone dans les basses couches. Et l'analyse par les médecins des victimes de la canicule de 2003, en particulier dans le sud-est et le sud-ouest, a montré que ce n'était pas tant le stress thermique ou le manque d'eau que des problèmes respiratoires liés à la dégradation de la qualité de l'air. Donc on a un couplage entre les changements à grande échelle, le climat, et puis ce qui se passe localement avec les sources de pollution locales, qui va être important à prendre en compte. Et puis pour finir, moi je ne suis pas paléoclimatologue, donc j'aime bien regarder le long terme. Finalement, quand est-ce que ça peut se résoudre? Il y aura bien un moment donné où volontairement, on se restreint, on utilise moins d'énergie fossile, ou involontairement, il n'y a plus de pétrole, plus de gaz et puis moins de charbon, on atteindra un point culminant dans nos émissions de gaz à effet de serre. C'est soit volontaire maintenant, soit involontaire à la fin de ce siècle, mais ça va venir. Donc il y aura un moment donné, on atteindra un maximum de concentration de CO2 et un réchauffement maximum. Ce ne sera pas en 2100, ce sera au-delà, avec l'effet d'inertie. Ça mettra à peu près 500 ans pour avoir l'acidification maximum de l'océan dans toute sa masse. Et puis ensuite, on aura une diminution. Ça veut dire que l'océan aura digéré un peu de ce surplus de CO2. Et on aura une diminution lente de la température. Le temps que les masses d'eau fassent le tour des bassins océaniques, c'est à peu près 1000 ans. C'est là qu'en fait, les océans se seront dilatés au maximum, puisque le réchauffement aura touché tout le volume des océans. Et puis, c'est le temps de réaction des calottes polaires, à peu près 1000 ans. Et probablement, sur à peu près 100 000 ans, on reviendra au niveau naturel de CO2, et on reviendra à cette variabilité naturelle du climat, vous savez, les glaciations et les périodes chaudes. Mais la phase transitoire, elle n'est pas instantanée. On touche à des échelles de temps qui dépassent largement une vie humaine, ou même les vies des civilisations, par exemple. On touche sur des échelles de temps longues. Donc c'est une perturbation qui n'est pas éphémère. On touche vraiment aux rythmes fondamentaux du climat. Et puis pour finir, en résumant un peu ce que je vous montrais, la fin des dinosaures, le climat du Crétacé, plus de CO2, peut-être 5 degrés plus chaud qu'aujourd'hui, c'était il y a 65 millions d'années. Des petites variations sur les derniers millions d'années, un climat un petit peu plus chaud qu'aujourd'hui. Les grandes glaciations, les cycles de 100 000 ans, avec 5 degrés de changement sur une période de 10 000 ans. La période chaude actuelle, les données historiques sur le dernier millénaire, des variations de l'ordre d'un demi-degré, en gros. Et puis ce qui nous attend, ce que je vous montrais, les calculs climatiques, il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas d'autres calculs que ceux-là. C'est un réchauffement de l'ordre de 2 à 5 degrés sur une échelle de 100 ans. Donc vous voyez, là on passe d'échelles de temps qui sont de l'ordre de 50 millions d'années, sur une échelle de temps qui est de l'ordre de 100 ans. Ce n'est pas l'amplitude qui pose un problème, c'est la vitesse. Et donc, je finis avec ça. Il y a des défis qui sont énormes, en fait. Il y a des défis pour les scientifiques. Donc, j'ai essayé de vous montrer nos incertitudes. Je pense que c'est important d'être humble devant la complexité de ces problèmes-là, montrer les outils dont on dispose en termes de données, en termes de changements passés, puis en termes de calculs. Et il y a des défis importants pour améliorer notre compréhension du fonctionnement de cette machine climatique et pour arriver à le prévoir finement, c'est-à-dire ce qu'on attend, c'est à l'échelle humaine. Concrètement, dans un endroit donné, comment ça va jouer? Et puis il y a des défis qui sont politiques, qui dépassent largement mon expertise, qui sont d'abord de prendre en compte ces scénarios-là pour toutes les décisions à prendre. Et c'est l'adaptation, c'est-à-dire prendre en compte, quand on plante une forêt, quand on construit une infrastructure, que le climat, dans 30 ans, il ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Ça, c'est important. Et puis, ce qu'on appelle en anglais la mitigation, c'est-à-dire déployer un ensemble de méthodes pour atténuer la vitesse des changements climatiques. En gros, ça veut dire, on n'a pas d'autres techniques aujourd'hui, limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de vous, ça dépend des autres, de tous les habitants de cette planète. Les calculs des économistes, ils montrent que c'est faisable. Je pense que c'est important de le savoir. Avec la manière dont on sait, dont on connaît les causes des rejets de gaz à effet de serre, les technologies déjà disponibles ou possibles, c'est possible de le maîtriser Mais il faut le vouloir et il faut le vouloir collectivement. Parce qu'un seul pays ne suffira pas. L'Union européenne, par exemple, elle représente à peu près 15% des émissions de gaz à effet de serre. Et les États-Unis et la Chine, à peu près, je crois que c'est de l'ordre de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc tout le monde doit jouer dans la même direction, sinon ça ne marchera pas. Et puis par rapport à la question que j'avais posée au début, maintenir, éviter une interférence dangereuse avec le climat, on tombe sur une question qui est éthique finalement. Pour vous, qu'est-ce qui est acceptable en termes de changement de climat? Et c'est finalement la question qui est posée aux dirigeants des différents pays de la planète à Copenhague. Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Merci de votre attention.
Excuse-moi. On va passer donc aux questions maintenant. Donc avec, il y a eu beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à rebondir s'il vous plaît.
Bonsoir, Cyril Rousseau. Merci pour la qualité de votre exposé. Les machines à faire l'oxygène, on a vu les forêts et les océans. Vous parliez difficultés parce qu'aujourd'hui, trop de CO2. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Est-ce qu'elles ne se dégradent pas parce que on abîme les forêts et qu'on pollue les océans? Donc ça, c'est une petite éclaircie que je voulais avoir. Deuxième chose... pourquoi les scientifiques, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord au moins sur une voie commune par rapport à vos informations? Et troisième chose, pourquoi vous ne passez pas un petit peu à la télévision?
Alors, je vais le prendre dans les différentes étapes. Alors, troisième étape, ça m'arrive de passer à la télévision. Le message que j'essaie de faire passer, ce n'est pas toujours évident de le concentrer en 30 secondes. Voilà, et je pense qu'on en parlait tout à l'heure en mangeant ensemble. Les médias fonctionnent beaucoup avec la peur. Et moi, j'essaie d'en appeler à la raison. C'est-à-dire, je ne pense pas avoir essayé de vous faire peur. J'aurais pu le faire. Hein. Ce que j'essaie de montrer, c'est ce dont on dispose pour pouvoir agir. Et je pense que la peur est souvent mauvaise conseillère. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, on a aussi des porte-paroles médiatiques qui, je pense, maîtrisent mieux les médias que parfois les scientifiques de base. Donc ça, c'est le premier point. Alors le deuxième point, est-ce qu'on ne dégrade pas plus l'océan ou les plantes et les sols par nos activités? Alors pour l'océan, à ma connaissance, non. C'est-à-dire pour le moment, on comprend relativement bien le puits de carbone océanique en modélisant tel qu'on peut le faire, hein, le fonctionnement du plancton végétal et animal, par exemple. Et on n'a pas d'altération pour l'instant significative. La grosse incertitude pour l'avenir, c'est l'effet de l'acidification des océans. Ça reste vraiment un point d'interrogation. Il y a eu des expériences en aquarium, en gros, hein, en particulier à Monaco, pour voir comment certaines espèces marines réagissent. Mais une perturbation courte n'est pas la même chose qu'une perturbation longue. Il y a certaines espèces qui savent s'adapter, on l'a découvert d'ailleurs, avec des systèmes de contrôle du pH à l'intérieur des cellules, avec des pompes ioniques qu'on ne soupçonnait pas. Donc là, il y a un gros travail en biologie à faire sur l'impact de l'acidification des océans. Au niveau des forêts ou des sols, il n'y a aucun doute que les activités humaines jouent. Ce n'est pas le climat pour l'instant qui est responsable de la perte d'efficacité des puits de carbone continentaux. Sauf exception. Pour le moment, c'est essentiellement la déforestation, donc en gros, pour faire schématique, la consommation de colza qu'on importe d'Amérique du Sud et avec lequel l'ensemble de notre cheptel est alimenté. Je pense qu'il faut le dire clairement. Et deuxièmement, la production d'huile de palme qui peut être utilisée chez nous pour des solvants, pour... toute notre alimentation industrielle, puisque c'est la matière grasse la moins chère, et également en termes de biocarburant, et qui est à l'origine d'une déforestation extrêmement rapide en Asie du Sud-Est. Par contre, on a la preuve que le climat peut jouer, ou la météorologie, disons, peut jouer sur les puits de carbone végétaux. Je vous donne l'exemple de la canicule de 2003. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé sur les forêts? Donc les arbres, à la mi-août, ont perdu leurs feuilles à cause de la sécheresse et de la vague de chaleur. Donc normalement, c'est le moment où les arbres continuent encore un peu à stocker de la matière organique et puis également les sols. En fait, ça s'est été inversé, donc il n'y a plus de photosynthèse parce qu'il n'y avait plus d'eau, il faisait trop chaud. Et à l'inverse, on a une respiration, en particulier dans les sols. Donc toute la litière des forêts en Europe a relargué l'équivalent de 3 années de stockage de CO2. Donc ça montrait concrètement qu'une vague de chaleur peut inverser, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on stocke du carbone, on l'a relargué. Et alors je crois que j'ai oublié la question du milieu, si vous pouviez me la reformuler. Qui avait les...
Hein alors, donc, vous
ah oui, se mettre d'accord. Oui. Mais si, on le fait, c'est ce qu'on nous reproche d'ailleurs. Est-ce que les scientifiques
Claude
se
Allègre
mettent d'accord?
Claude Allègre n'a pas l'air d'être d'accord.
Alors est-ce que Claude Allègre est un climatologue? Est-ce que Claude Allègre a jamais fait une publication dans un journal spécialisé sur le climat? La réponse, malheureusement, elle est non. Donc les scientifiques du climat essaient de se mettre d'accord. Par exemple, on produit des scénarios types pour pas que chaque groupe de modélisation fasse son propre scénario, sur lesquels on compare tous les modèles. C'est exactement l'exercice qui est fait dans le cadre du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui n'est pas un lobby comme parfois on veut le présenter, qui est simplement un groupe de scientifiques qui est renouvelé aux 3/4 tous les 6 ans, qui ne fait pas de science, qui fait une synthèse des travaux scientifiques des 5 années les plus récentes, et qui les met à disposition de tout le monde, et c'est disponible en ligne. Donc justement sur les sciences du climat, on a quelque chose qui est unique, c'est pas un consensus vraiment, c'est une synthèse de l'état des connaissances tous les 6 ans. C'est très chouette pour nos étudiants d'ailleurs, parce que ou quelqu'un qui enseigne justement l'évolution du climat, parce que vous avez cette mine d'informations, ces 1000 pages de rapports sur la physique du climat, sur les impacts et sur les approches socio-économiques du changement climatique. Donc c'est à la disposition de tous, et je pense que c'est assez unique. Les gens qui travaillent sur la biodiversité essaient très difficilement de mettre en place quelque chose de similaire. Donc ça existe en fait.
Juste une petite précision sur un schéma sur les pays les plus producteurs de gaz carbonique. Il y avait États-Unis, Canada, et il y avait les Émirats arabes.
Ah
tout
oui,
au
vous
bout,
avez tous les pays du Golfe qui ont une consommation énergétique aberrante, et le Luxembourg aussi, près de chez nous, par exemple.
Vous les aviez pas cités?
Non, je les ai pas cités parce qu'ils représentent une petite fraction de la population.
D'accord.
Mais ils ont une énergie abondante et peu taxée, et donc une consommation, c'est assez lié en fait, une consommation énergétique qui est aberrante. Vous avez certainement entendu parler des pistes de ski indoor qu'on fait dans certains états, et c'est qu'un exemple parmi d'autres.
Alors je ne sais pas si c'est le bon exemple, parce qu'en fait avec le solaire, je suis prof de ski moi, donc à Dubaï, je connais un peu la station, parce que c'est un Français qui dirige la station. Et donc, alors à la construction, il y a eu un coût, bien sûr, mais pour produire la neige, ça ne coûte rien parce qu'il y a de l'énergie solaire. Après, bon, il y a d'autres...
Mais le refroidissement, il n'est pas solaire. Il marche avec des systèmes de climatisation qui sont extrêmement polluants. Le bilan avait été fait pour cette station-là.
Voilà. D'accord. Et il est sorti dans l'équipe magazine, vous l'avez vu, sur le bilan carbone des stations de ski.
Oui, mon mari m'a montré ça, parce que lui, il lit l'équipe magazine.
D'accord, parfait. Okay. C'est intéressant.
Oui, je pense qu'en fait, très honnêtement, finalement, la première étape, bon, ça, c'est l'approche les autres, globale, mais concrètement, chacun à son échelle, par rapport aux gestes de tous les jours, on peut calculer son empreinte en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pas toujours facile parce que pour l'alimentation, par exemple, on n'a pas tout le détail de l'information, ou pour les produits industriels qu'on achète, l'origine, la façon dont ça a été transporté, etc. Mais pour le chauffage, les transports, l'utilisation d'électricité, ou en gros le type de choses qu'on mange, c'est tout à fait facile à faire. Moi, je suis tout à fait consciente de mon empreinte. Nous sommes 4 dans ma famille, nous rejetons 16 tonnes de CO2 par an pour notre vie personnelle, vacances compris, et par mon travail, j'en fais 4 de plus. Donc mon problème, ce sont mes déplacements par avion pour mon travail. Donc en Europe, je prends le train, mais voilà, pour être précise.
Bonsoir, je voudrais revenir sur un élément qui m'échappe un petit peu, c'est la durée de vie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Oui.
Vous avez parlé tout à l'heure de ce sujet en disant que le CO2, on disait qu'il avait une durée de vie d'un siècle, mais que néanmoins il en restait après 1000 ans et après 10 000 ans.
Tout à fait.
J'aimerais bien comprendre physiquement comment ça se passe. Les gaz à effet de serre, ils stagnent dans la haute atmosphère. Qu'est-ce qu'il arrive en fin de vie, c'est quoi la durée de vie physiquement d'un gaz à effet de serre.
Donc en fait, c'est une histoire de réservoir et de flux, le problème, pour estimer une durée de vie. Hein, donc c'est les flux qui vont stocker du CO2 par rapport à la taille de notre réservoir. Et quels sont ces flux qui vont vraiment enfouir du CO2? Donc vous avez la partie, par exemple, océan de surface, qui est rapide. Ensuite, vous avez des processus de sédimentation, donc le plancton marin, qui va sédimenter et progressivement enfouir du CO2 au fond des océans. Donc ce sont des processus sédimentaires qui sont longs. Vous avez ensuite des processus d'altération à la surface des continents, donc d'érosion, d'altération, qui en fait pompent du CO2 atmosphérique, le transfèrent dans des carbonates, qui vont ensuite sédimenter au fond des océans. Et ces processus-là, c'est des processus en exponentielle décroissante, donc qui ont un effet en fait long, sur des échelles de temps de dizaines et de centaines, voire de milliers d'années.
D'accord, donc en fait, il ne disparaît pas, ce CO2.
Il est petit à petit, le CO2, il est transformé, essentiellement sous forme de carbonate, en fait, et ensuite enfoui. Et ça prend du temps. Alors si on prend le méthane, lui, il est photodissocié dans la haute atmosphère, donc il a une durée de vie courte, de l'ordre de 10 ans, et ensuite ça devient du CO2. Donc pendant 10 ans où il reste sous forme méthane, il est extrêmement actif en termes d'effet de serre, puis ensuite il devient du CO2.
D'accord.
Oui, je voudrais revenir un petit peu sur le rôle des forêts dans les cycles du carbone et autres. Il a été dit notamment par quelqu'un tout à l'heure que les forêts étaient des machines à faire de l'oxygène. Alors en fait, il me semble qu'une forêt à l'équilibre, c'est un petit peu un bilan zéro. C'est-à-dire que quand les arbres grandissent, bon là ce sont effectivement des puits de carbone, mais ensuite dans les vieux arbres, les branches pourrissent, tombent au sol, la respiration augmente, et tout l'arbre finit par mourir tôt ou tard. Même chose. Donc là, le retour à la terre dégage des fermentations et donc des émissions de CO2. Si on prend maintenant les arbres qui sont plantés par l'homme, alors plantés, bon, on se dit forêt en croissance, puits de carbone. Même il y a des échanges de puits de carbone actuellement, bon, entre les pays qui sont supposés faire de la reforestation. Mais qu'est-ce que ça devient après? Alors, ça devient soit du bois pour faire des meubles, mettons. Les meubles, après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Soit ils sont brûlés, ils sont détruits, ça ne dure pas une éternité. Ou bien lors de la pâte à papier, cellulose ou autre. Et à la fin, également, ça retourne sous forme de CO2 ou d'autres gaz dans l'atmosphère. Donc, je ne vois pas trop en quoi ce puits de carbone est un véritable puits de carbone. Ça me semble une vision à court terme.
Donc, effectivement, sur une échelle transitoire, quand vous supprimez une forêt, vous relarguez du carbone. Ça, c'est le premier point. Ensuite, là, vous regardez au niveau de l'arbre, en gros des arbres, mais il y a aussi les sols. Et plusieurs travaux récents montrent en fait que dans les forêts primaires, vraiment les forêts primaires qui n'ont pas été manipulées par l'homme, on a un enfouissement et un stockage de carbone dans les sols. Donc ça va au-delà de la vie de l'arbre lui-même, et on a une certaine capacité de séquestration sur le long terme dans les sols des forêts primaires. Donc quand on détruit une forêt primaire, d'abord en général on la brûle, on coupe les arbres de valeur et le reste on brûle pour avoir des terres. Donc là on le relargue transitoirement du CO2, et ensuite on perd ce système d'enfouissement de carbone qui est le sol d'une forêt, qui en général est lessivé assez rapidement, érodé et lessivé assez rapidement. Donc on perd à deux niveaux. Alors comme vous le dites, sur une forêt gérée, comme c'est le cas en France d'ailleurs, globalement, pour un arbre qu'on coupe et qu'on brûle à relativement courte échelle de temps, on en replante un et puis c'est à peu près à l'équilibre. Okay, donc quand on est en France par exemple et qu'on se chauffe au bois, c'est relativement neutre en termes de CO2 parce que la forêt, au fur et à mesure qu'on coupe, on reboise. D'ailleurs la forêt française elle a tendance à s'étendre. On le voit très nettement dans beaucoup de régions avec la déprise rurale, en moyenne montagne par exemple. Voilà, donc je pense que ça répond en partie à votre point. Donc c'est effectivement une phase transitoire. Quand on détruit une forêt primaire, on perd un puits de carbone. On relargue du carbone parce qu'on la brûle et on perd un puits de carbone au niveau des sols. Sur une forêt gérée de manière durable, ça fonctionne. Il y avait aussi un troisième volet qui était de dire est-ce qu'on peut faire de la géo-ingénierie ? C'est-à-dire si on plante à grande échelle des forêts dans des zones qui deviennent propices, par exemple dans le nord, le nord des continents. Donc on va rajouter un puits de carbone qui n'existait pas. Et pendant les 20, 30, 50 ans où ces jeunes forêts vont pousser, elles vont stocker du carbone et nous aider, hein, amortir un peu l'effet anthropique. Alors à premier ordre, ça fonctionne. Puis ensuite, quand on prend en compte le couplage entre la végétation et le climat, on s'aperçoit que si on boise des zones qui sont plutôt des zones de prairies ou de toundra aujourd'hui, on change l'albédo, on aura des zones en fait, qui vont absorber davantage d'énergie solaire et on va réchauffer. Donc cet effet en fait, de la couverture végétale sur le climat va dans le sens inverse de ce qu'on souhaiterait. Il y a beaucoup de projets de compensation de CO2 qui vous proposent de reboiser certaines régions. C'est souvent des arbres type des eucalyptus, donc qui ont une croissance rapide, qui ont une valeur économique à 10 ans en gros, hein. Mais ce n'est pas regagner une forêt primaire.
Oui, ce qui m'impressionne, moi, c'est la rapidité du changement. Par exemple, les poissons dont vous avez parlé, eux, ils peuvent nager et puis aller plus au nord. Mais les populations aussi pourront se déplacer, ce qui fera sans doute des problèmes, des guerres, parce que si le Bangladesh, ça monte d'un mètre. Ouais. Mais les arbres...
Disons que déjà aujourd'hui, on construit pas mal de murs. Hein.
Oui. Mais les arbres, par exemple, la population, enfin les arbres, les chênes, par exemple, ils ne peuvent pas migrer à la même vitesse que les poissons. Et est-ce que ce réchauffement, on a l'impression, alors je vais sourire un peu, mais en tant que cueilleur de champignons, c'est la saison, on a l'impression que les chênes sont stressés parce que l'hiver n'a pas été suffisamment pluvieux, il n'y a pas eu suffisamment de réserves. Et en plus, il n'y a pas eu suffisamment de pluie, du moins il a plu tard. Il y en a beaucoup moins. Est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que c'est un épiphénomène ?
Alors moi, je travaille sur l'histoire aussi du climat telle qu'elle s'enregistre dans la composition des anneaux de croissance des arbres. Et en fait, notre outil de travail préféré, c'est les chênes. Alors les chênes, c'est chouette parce que ça fait deux anneaux de croissance par an. D'abord en bois de printemps, puis après un bois d'été. Donc c'est très 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 bien pour dater. Alors, je n'ai pas de réponse par rapport aux champignons, je suis désolée. Mais par contre, quand on regarde les chênes en région de plaine, en région tempérée en France, je parle des chênes sessiles et pédonculées, hein, voilà. C'est vrai que le principal facteur de stress, c'est le manque d'eau. Donc, ce n'est pas tant la température que le manque d'eau. Et c'est également le cas pour d'autres essences, comme par exemple le hêtre, qui a du mal à répondre au stress hydrique. Et quand on regarde, vous pouvez voir dans l'exposition qui est au-dessus, vous avez une carte qui avait été produite par l'INRA. À partir de ce qu'on comprend, de ce qui contrôle la survie d'un peuplement d'arbres et des différentes essences, on voit que la forêt française va être profondément remodelée à horizon 2100. Ce qui est intéressant de voir d'ailleurs, c'est la gestion des forêts de l'ONF. Je dirais qu'il y a 50 ans, la logique, c'était productivité. Donc dans une région donnée, on mettait des clones, qui étaient des arbres qui donnaient le meilleur rendement pour un climat donné et un type de sol donné, en gros. Et puis, sont passées par là, quand même, deux séries de tempêtes, celle de 99 et puis celle de l'hiver précédent, là, avec une fréquence qui est assez inhabituelle. Donc ça pose d'ailleurs des questions hein, sur les conséquences de ces tempêtes-là. Et on a lancé une réflexion nationale hein, sur comment reboiser. Puisque dans certaines régions, vous aviez le tiers des forêts par terre. Et c'est vraiment un changement de logique, parce que là, la philosophie, elle est de dire pour un chêne, quand on le plante aujourd'hui, c'est pour qu'il vive 100 ans, en gros, quoi, hein, 80 ans. Ouais, ils sont souvent coupés au bout de 100 ans, c'est notre problème, nous, pour remonter sur les climats passés. Hein. Les chênes anciens, on a du mal à les trouver. Hein. Et sauf les arbres remarquables. Donc la philosophie maintenant, elle est non pas de planter des clones qui donnent le meilleur rendement, mais de planter un bouquet d'essences, celles qui poussent bien dans un contexte de climat actuel, et puis celles qui poussent bien 100-200 km au sud. Et donc de mettre à la fois des arbres, en gros, qui peuvent résister à des hivers froids, et des arbres qui peuvent résister à des étés chauds et secs. Donc, cette phase-là transitoire, elle est compliquée. Hein.
Merci, je vous remercie pour votre conférence qui était de grande qualité. Puis pour une fois qu'on a quelqu'un du GIEC, je vais vous poser quelques questions que beaucoup de gens se posent.
Je ne suis pas membre du GIEC, je n'ai pas de carte. J'ai été un des auteurs du dernier rapport.
D'accord. Alors, quand on va se promener sur Internet, on voit des choses. Alors, ma première question, c'est est-ce que ça fait l'unanimité de dire que le réchauffement actuel anthropique, la part anthropique, est dû uniquement au CO2 ? Et principalement, je vais dire principalement au CO2.
Parmi les scientifiques du climat qui publient dans la littérature scientifique, je dirais oui. Je dirais même que l'effet de l'augmentation des concentrations de CO2 a été probablement masqué dans les années 60-70 par les émissions d'aérosols de pollution. Hein, vous savez, les sulfates, avant qu'on ait des normes strictes sur les installations industrielles. Et probablement, les publications qui sont sorties ces deux dernières années, elles suggèrent que cet effet anthropique-là a même atténué un peu et repoussé finalement la détection de l'effet du CO2 sur le climat.
D'accord. Bon, moi, je ne vous parlerai pas d'Allègre.
Oh, bah, je vous en prie. Hein.
Même un de ses copains, Courtillot.
Mais je viens de lire son livre, alors je suis incollable, là.
Moi, je ne l'ai pas lu.
Il écrit de manière aussi brillante qu'il parle. C'est quelqu'un de très cultivé.
Tout à fait.
Par contre, c'est dommage qu'il raconte des choses fausses sur le climat. Voilà.
Dites-moi, on lit aussi qu'un certain nombre de personnes ont abandonné le GIEC parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ses conclusions, partant du principe que les scientifiques avaient travaillé et qu'ensuite les politiques n'avaient pas retranscrit ce que les politiques leur avaient dit. Qu'est-ce qu'il en est ?
D'abord, il y a des gens... les auteurs du GIEC sont renouvelés. Il faut voir comment ça fonctionne. Il y a un appel à candidature. Alors vous... donner votre candidature. Et ensuite, il y a un tri pour avoir un équilibre de pays, ça c'est important, de genre, d'âge, et puis un renouvellement à hauteur de 3/4. C'est-à-dire que d'un rapport à l'autre, de toute façon, 3/4 des auteurs sont différents du rapport précédent. Je pense que ça c'est important, d'abord. Donc effectivement, il y a plusieurs scientifiques du climat, par exemple un Américain qui s'appelle Richard Linson, qui travaille sur la physique des nuages, qui a été l'un des auteurs des premiers rapports du GIEC, qui lui, en fait, considère que les nuages ont une rétroaction négative sur le climat, mais n'a pas développé de scénario particulier sur l'évolution future du climat. Il dit juste, j'ai étudié dans cette zone tropicale-là aujourd'hui les nuages convectifs, et il y a un effet de refroidissement, et donc, à grande échelle, ça doit être ça qui joue. Ce qu'on peut, on peut argumenter sur ce point-là. Et donc, lui, s'est mis effectivement en retrait par rapport aux conclusions du GIEC, pour donner un exemple. C'est d'ailleurs un ami de Claude Allègre. Mais il y a aussi des individus, c'est assez marrant de voir ce jeu d'acteurs. Donc vous avez le GIEC qui fonctionne en fait avec un système qu'on peut considérer comme consensus. C'est-à-dire que quelque chose qui est nouveau et original, on va dire c'est nouveau et original, mais il n'y en a qu'un qui l'a fait. Puis quand vous avez 20 groupes qui ont montré la même chose, on dira... c'est très cohérent sur ce point-là. Puis quand vous avez 20 groupes qui ont fait quelque chose puis qui ne montrent pas d'accord, on dira on ne peut pas conclure. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc forcément, il y a quelque part un retard entre ce que le GIEC présente comme l'état de la science et puis les avancées scientifiques. Donc vous avez d'une part des gens qui vont dire « Ouais, mais ils accordent une confiance trop grande au modèle de climat, regardez leurs incertitudes, typiquement. » Donc ils se mettent un peu en retrait en disant « Mais moi, je m'intéresse plus aux incertitudes. » Et puis, vous avez d'autres gens qui vont dire « Mais regardez, moi, j'ai inclus le cycle du carbone, j'ai inclus le pergélisol qui change, et j'ai pas un réchauffement de 3 degrés, mais de 6. » Et c'est les mêmes scientifiques qui ont été aussi des auteurs du GIEC et qui ont des scénarios beaucoup plus, entre guillemets, catastrophistes. Donc, c'est un communiqué de presse qui a été rendu public par l'Institut de recherche sur les impacts du changement climatique de Potsdam en Allemagne, qui est rendu public aujourd'hui, par exemple, dans l'autre sens. Donc, voilà comment ça évolue. Et le principe du GIEC, c'est que ça ne fonctionne que sur la littérature scientifique. C'est-à-dire quelqu'un qui raconte un truc dans Le Point ou l'Express, on ne le cite pas. On ne cite que ce qui est passé par la démarche scientifique habituelle. C'est-à-dire vous écrivez un article, vous soumettez à un journal, vous avez 2, 3, 4 spécialistes qui le relisent et qui acceptent ou pas votre publication. C'est comme ça que ça marche. Alors donc c'est long.
Vous nous dites que dans le GIEC, c'est renouvelé, c'est très bien. Mais qui est-ce qui décide des nouvelles personnes qui vont faire partie du GIEC ?
Les gouvernements.
Je continue. Oui. Parce que j'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu sur Internet qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient dans le GIEC, qui l'ont quitté, qui n'étaient pas d'accord avec les conclusions, disant chacun travaille dans sa spécialité et ensuite il y a une synthèse qui est faite, mais une synthèse qui nous échappe. Et on n'est pas du tout d'accord avec les synthèses. C'est vrai ou c'est pas vrai ?
Alors, moi, je n'ai pas rédigé la synthèse, d'abord. Donc sur chaque chapitre, on a en gros une douzaine d'auteurs qui sont choisis par les gouvernements et par les gens qui sont le bureau du GIEC. Donc quelques scientifiques qui font partie de ce bureau-là. Donc il faut être adoubé par votre gouvernement et retenu par le bureau du GIEC. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un exercice compliqué. Ensuite, on rédige un rapport de niveau zéro qu'on fait relire à des experts, qu'on choisit nous-mêmes. Suite à leur retour, on rédige un rapport de niveau 1 qu'on rend public et qui est ouvert à l'ensemble de la communauté scientifique. Pour notre partie sur les climats du passé, pour 30 pages, il y a la courbe du dernier millénaire qui est un sujet sensible. Pour 30 pages de texte, on a eu 300 pages de commentaires. C'est-à-dire une ligne écrite, il y a eu 10 lignes de commentaires. Je ne connais pas d'autres textes scientifiques qui aient été autant relus. Alors il y a beaucoup de commentaires qui sont du style « mais vous n'avez pas très cité mon article si important de l'année 2005 ». Bon, ça c'est l'ego des scientifiques. Et puis vous avez des critiques du style « mais vous avez affirmé que tel truc était certain, mais tel auteur a montré tel truc, donc vous devriez nuancer ». C'est souvent le cas. Donc on prend en compte ça et on est obligé de répondre. Puis après il y a une deuxième lecture par les gouvernements qui en fait demande à des scientifiques non auteurs du GIEC de chaque pays de le relire. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, c'était rigolo parce que les États-Unis avaient nommé un sceptique bien connu dans leurs experts, par exemple. Voilà. Donc du coup, pour dire que, quelque part, ils contribuent aussi à l'élaboration de ces rapports-là. Hein, ils ne sont pas complètement extérieurs. Et puis donc, la manière dont la synthèse est faite, hein, vous avez un rapport de 1000 pages que peu de gens lisent. Par exemple, Vincent Courtillot ne l'a clairement pas lu. Et ensuite, vous avez 20 pages de résumé pour décideurs que certains lisent, puis souvent dans leur traduction dans d'autres langues. C'est vrai qu'entre le rapport avec tous les bémols sur 1000 pages et le concentré sur 20 pages, il y a des différences. Par exemple, moi j'ai eu le droit d'assister à 2 jours de discussion à Paris sur l'approbation par les gouvernements de ce résumé en 2007. Et clairement, les délégués chinois ne voulaient pas que soit écrit noir sur blanc que les émissions de gaz à effet de serre de la Chine avaient fortement augmenté. Mais dans ce à quoi j'ai assisté personnellement, je ne préfère pas parler de ce que les gens racontent, mais de ce que j'ai vu, il n'y a eu aucune interférence avec la présentation des résultats scientifiques. C'était juste avec ce point de responsabilité de certains États.
On va rentrer un petit peu maintenant dans le détail. Vous avez montré tout à l'heure des courbes de l'évolution du CO2, notamment ce que vous avez noté dans les carottes glaciaires.
Oui.
Est-ce que ces courbes, ces concentrations, ces augmentations de CO2 coïncident avec les augmentations de température ou sont après les augmentations de température? Parce que ça aussi, on le lit sur Internet.
Alors, sur une période de 10 000 ans de ces transitions-là, vous avez au démarrage la température qui commence à augmenter en Antarctique et quelques siècles après, dans l'état de nos connaissances, hein, nos incertitudes, la concentration de CO2 qui démarre. Donc sur 10 000 ans, vous avez en gros 500 ans où c'est la température d'abord et vous avez 9500 ans où c'est conjoint.
Et à partir de ça, ça permet de déduire que l'augmentation du CO2 actuel va contribuer à une augmentation de température?
Pas du tout, absolument pas. On n'extrapole rien du tout de ces données-là pour le futur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, par exemple, les mêmes modèles de climat qu'on utilise pour le futur, les mêmes. Et puis, on va leur imposer la présence des grosses calottes glaciaires. Et on va baisser la concentration de CO2. Et on va tester s'ils arrivent à simuler un climat glaciaire, par exemple. Et si on n'impose que la présence des grosses calottes de glace, ben, nos modèles de climat, ils font un refroidissement qui est en gros le tiers de ce qui est observé. Le tiers à la moitié. Si on baisse les concentrations de CO2, nos modèles de climat simule tout à fait correctement un climat glaciaire par rapport aux données dont on dispose au pôle, mais aussi dans les régions tropicales et sur les continents. Donc on se sert de ces données-là sur les climats du passé pour tester nos modèles, mais on ne s'en sert pas du tout pour l'avenir. La compréhension du lien entre CO2 et climat, ce n'est pas de la corrélation, c'est de la physique des transferts de rayonnement dans l'atmosphère. Un point par contre qui est difficile, est-ce qu'on arrive à simuler à comprendre pourquoi le CO2 était plus bas en période glaciaire, on n'y est pas encore complètement. C'est-à-dire que dans les modèles de climat, je vous disais qu'on va de plus en plus vers la simulation du cycle du carbone, qui a un volet de chimie des océans, de dynamique des océans, de biologie marine, et puis de sédimentation. Et le processus de sédimentation ne le représente pas encore tout à fait bien.
Alors, pour cette première question politique, cette deuxième qui remonte à quelques millénaires. Maintenant, pouvez-vous m'expliquer pourquoi il y a eu cette petite remontée de température avant l'année 1940? Je crois que vous avez monté avant 40, ça monte, ensuite ça descend un petit peu, puis ça remonte. Là, l'industrie n'était pas très forte dans les années 20-40.
Alors dans les années, en fait, c'est ce que vous voyez ici, là. Donc cette estimation des variations de température, en fait, elle est particulièrement marquée dans les zones, en fait, autour de 1930-1940, dans les zones arctiques. Et on n'a pas une explication simple. La chose qu'on constate à la fois dans les observations et dans les modèles de climat, c'est que dans les périodes longues, sans grosses éruptions volcaniques, on a tendance à avoir un réchauffement important au niveau de l'Arctique. Ce n'est pas que de l'effet de serre, c'est aussi du transport de chaleur par les océans, les courants marins et par les vents. Hein. C'est vraiment la météorologie polaire. Et ces épisodes qu'on observe naturellement, c'est-à-dire cette variabilité d'une décennie à l'autre, même à CO2 constant, hein, du climat de l'Arctique, les modèles de climat peinent à avoir l'amplitude suffisamment grande. À mon avis, c'est plus un problème d'avoir correctement l'interaction entre le transport de chaleur par les océans et la circulation atmosphérique. En fait, on a cette espèce de pic là, dans les années 40, puis on a une période relativement stable ensuite. Alors sur Internet, sur les sites sceptiques, vous avez toute une discussion sur la manière dont on a mesuré les températures, en particulier la température de la mer, les méthodes d'observation qui ont changé à ce moment-là. Au niveau des continents, en fait, la période 1940-1950, c'est aussi une période où on a changé les systèmes d'observation. Donc vous avez en haut un exemple de thermomètre, de station météo et de thermomètre actuel. Vous savez, c'est une boîte blanche avec une norme de distance de bâtiment, etc. En France, on a changé en fait en 1950, par exemple, les thermomètres. Et avant, on avait des thermomètres beaucoup moins bien abrités. Qui avaient des biais, qui avaient tendance un peu à surestimer les températures d'été, par exemple. Donc l'incertitude sur l'estimation de la température globale, je vous l'avais montré avant, elle est un peu plus grande, en fait, avant 1950, par rapport à la période 1950-2000. En gros, 1950, c'est l'Organisation météorologique mondiale qui impose des normes d'observation plus strictes qu'avant. Donc on a cette incertitude-là, je dirais. En particulier pendant la période de la dernière guerre mondiale, il y a eu des trous dans pas mal d'observations. Russie, par exemple. Voilà. Pour être très complète sur les incertitudes. Mais vous voyez que les simulations dont on dispose montrent également un ralentissement du réchauffement à ce moment-là.
Oui, c'est à propos de la simulation. Quand on simule le temps, c'est un système chaotique. 15 jours.
Pourquoi est-ce que c'est chaotique ?
Pourquoi c'est chaotique ? Et pourquoi c'est pas chaotique à long terme ? Est-ce que ça dépend pas de ce qu'on met dans la simulation ? Par exemple, on doit mettre des grandes lois d'équilibre à l'entrée de la simulation, c'est normal qu'on ait des équilibres après.
Si on met des choses
plus aléatoires, peut-être qu'on peut arriver à des simulations qui donnent des résultats complètement différents.
Alors côté météorologique, pourquoi en fait les prévisions de temps divergent après 5 jours et de plus en plus au bout de 10 jours ? C'est parce qu'on a une connaissance extrêmement imparfaite de l'état initial de l'atmosphère. Donc on a aujourd'hui un réseau d'observations au sol, de profils verticaux de l'atmosphère et de mesures spatiales. Et donc ces données-là, on les collecte en temps réel, on les assimile dans des modèles de circulation de l'atmosphère, pour lesquels on ignore ce qui se passe d'ailleurs à la surface des océans. Et à partir de la connaissance de l'état initial, on calcule l'évolution de la circulation atmosphérique. Et comme l'état initial est mal connu, au bout d'un moment, les erreurs en fait augmentent, et ça fait diverger les calculs. On estime que d'ici quelques années, on pourra aller vers une prévisibilité à l'échelle, disons, de 3 à 6 mois, en assimilant non pas seulement l'état initial de l'atmosphère, mais aussi de l'océan sur les premiers mètres d'épaisseur de l'eau de mer, parce que ça a un rôle, bien sûr, important sur la météorologie qui suit. Alors, pourquoi est-ce qu'au niveau du climat, c'est pas purement chaotique dans nos équations, disons hein, parce que on génère une certaine variabilité dans les modèles de climat, qui n'est pas toujours d'ailleurs la variabilité réelle. Mais je pense qu'essentiellement, on a des processus régulateurs. Je vous l'expliquais. Hein. Ces processus régulateurs, qu'est-ce que c'est ? C'est la perte de rayonnement vers l'espace, hein, qui est un des processus stabilisateurs. Et puis c'est le couplage entre l'océan et l'atmosphère, des modèles. Et on a de cette manière-là, en fait, des scénarios qui ne sont pas chaotiques, je pense qu'on peut le dire. On a une certaine prévisibilité du climat. disons que l'image que les physiciens... comment expliquer ça ? C'est exactement la même chose que quand vous considérez l'échelle d'un grand volume d'air ou l'échelle de chaque molécule. L'image qu'on peut donner, c'est la météo au jour le jour, c'est la trajectoire de chaque molécule. Et puis l'évolution sur 100 ans, c'est l'ensemble. Mais c'est un peu de la même manière pour le climat. Autant l'évolution à quelques jours, c'est vraiment la météorologie, la circulation de l'atmosphère. Autant à l'échelle de plusieurs décennies, je dirais, ce sont les équilibres radiatifs qui pilotent le climat. C'est vraiment ça le moteur. Hein. C'est les équilibres radiatifs entre l'ensemble atmosphère et surface des océans et des continents et l'espace. Et le système s'autorégule un peu. Ah oui, bien sûr. Donc si on ne mettait pas plus chaque année de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, imaginons à un moment donné ça devient stable, hein. Les concentrations de CO2 dans l'atmosphère deviennent stables, petit à petit notre planète elle rayonnera plus, elle va perdre de la chaleur, on aura un équilibre qui va se stabiliser, bien sûr. Le problème c'est que là on est dans la phase transitoire.
Ma question était en fait... Est-ce qu'on met tout ce qui est je dirais relevant dans les simulations ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on oublie qui pourraient avoir un effet chaotique ou extrêmement déterminant
Alors, dans le côté chaotique du climat, c'est marrant, c'est une histoire qui revient souvent. Et quand on regarde les variations glaciaires-interglaciaires, vous voyez qu'elles sont très organisées à l'échelle glaciaire-interglaciaire. On a ces grands cycles, on a des facteurs importants en jeu. Si on regarde un peu plus finement, par exemple, pendant la dernière glaciation, on a des instabilités abruptes du climat. Hein ? On a 25 événements rapides, avec autour de l'Europe, du Groenland, de l'Amérique du Nord, des réchauffements très importants, 5 à 15 degrés, c'est énorme, 50 à 500 ans. Alors, c'est pas global. Hein. Et puis, des refroidissements progressifs. Et au début, effectivement, pas mal de gens, et Claude Allègre a repris ça, on dit bah, c'est le climat qui est chaotique, de temps en temps, il change d'état. Et puis en regardant plus finement dans les sédiments marins, ce qui se passait, on a vu que les phases froides, c'est des moments où on a des flux d'eau extrêmement importants, des icebergs en fait qui arrivent sur l'Atlantique Nord, qui apportent de l'eau douce, qui changent la densité de l'eau de mer et qui ralentissent complètement la grande boucle de transport de chaleur des courants marins. Et quand ce flux d'eau se tarit, on a un réchauffement abrupt. C'est pas le propre d'un système chaotique d'avoir une réponse précise à un forçage donné. Donc au début, effectivement, les gens voyant ça, ne comprenant pas ce qui se passait, se sont dit que le climat il a plusieurs états stables, puis brusquement, il passe d'un état à l'autre et c'est chaotique. Mais la réalité, elle est que non, il y a une cause extrêmement connue. Cette cause, elle est dans la densité de l'eau de mer, qui dépend de sa température et de sa salinité. Et quand vous avez une période glaciaire, des grosses calottes qui peuvent apporter de l'eau douce, elle change la densité de l'eau de mer et votre circulation océanique se ralentit ou se remet en route. Et ça n'a rien de chaotique. Et vous avez dans la revue Science, qui est prestigieuse, la première simulation d'ailleurs de la dernière déglaciation avec le gros coup de froid, la dernière grosse instabilité qu'on appelle le Younger Dryas, qui était il y a environ 14 000 ans, hein, et puis le coup de chaud qui a suivi. Et on arrive à le simuler à l'aide des mêmes modèles de climat que pour le climat futur, à deux conditions. Le CO2 qui augmente, qui fait cette déglaciation, et deuxièmement, mettre le flux d'eau des calottes de glace au bon moment et au bon endroit. Donc on a pensé pendant un moment que c'était chaotique et que ça pouvait basculer comme ça d'un état à l'autre, mais à grande échelle, ça n'est pas le cas. Par contre, là en ce moment, on s'interroge non pas sur le climat lui-même, mais sur ce qu'on appelle les régimes de temps. Alors les régimes de temps, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple ici, vous avez des passages dépressionnaires, puis des anticyclones, en gros. Donc vous avez du flux d'ouest, puis de temps en temps, une situation plus stable avec du vent du nord ou du sud, selon la saison. D'accord ? Et ça se succède dans l'année, ça change d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, puis c'est ce qui fait finalement notre climat. D'accord ? Quand on est ici, le climat, c'est pas que l'effet de serre et l'ensoleillement. C'est est-ce que le vent vient de l'ouest, du nord ou du sud, en gros. Et on pensait que ça, c'était quelque chose qui était d'ailleurs un peu chaotique, un peu aléatoire. Et quand on regarde ces dernières années, ce qui se passe au niveau de l'Arctique... On se rend compte que si on regarde par exemple l'été de 2007, il y a eu une situation avec un anticyclone bloqué pendant 4 semaines autour de la mer de Beaufort. C'est cette perte énorme de banquise qui a eu lieu en 2007. Hein. Donc il y a eu un anticyclone énorme, beaucoup d'énergie solaire disponible, très peu de nuages, et puis une fonte mais sensationnelle de la glace de mer. Personne ne l'attendait de cette vitesse-là. Et ça ne vient pas directement d'un surplus de gaz à effet de serre qui d'un coup a un effet énorme. Ça vient d'une circulation atmosphérique extraordinaire. Et on a regardé dans les données de pression disponibles, puis on en a sur le pourtour de l'Arctique depuis assez longtemps, les Russes et puis les Canadiens ont fait des mesures depuis longtemps, et on n'avait jamais eu une situation de ce type-là. Donc, quelque part, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces grandes tendances qu'on dessine là, et puis dans la manière dont une année donnée, à un endroit donné, ça va changer, et ben ça va être une certaine météorologie, un certain régime de temps, et ceux qu'on va rencontrer à l'avenir ne seront pas forcément ceux qu'on peut connaître sur le passé. Et c'est ça qui va parfois accélérer certains changements du côté de la glace de mer, ou dans d'autres cas, ben, les estomper. Si ici, vous avez plus de vent qui arrive du nord en hiver, ben, il fera froid, quoi. Malgré le surplus d'effet de serre, c'est comme ça que ça va se traduire. Je ne sais pas si je suis très claire dans ma réponse, mais j'essaie d'être complète.
C'est qu'il y a énormément d'input dans les simulations et connaissant un peu
Non, les simulations n'utilisent aucune donnée. Elles utilisent des lois physiques sur ce qu'on comprend de la dynamique des fluides, de la thermodynamique des fluides, en gros, hein, l'hypothèse hydrostatique, etc. Et elles incluent des paramétrisations, c'est le point important, semi-empiriques, pour représenter comment la turbulence de petite échelle interagit avec l'écoulement moyen ou comment statistiquement, un nuage et sa distribution de gouttelettes interagissent avec les échanges de rayonnement. Mais il n'y a aucune observation en tant que telle dans les modèles de climat. Et on les teste en permanence. Donc je peux même vous donner mon sentiment à ce propos. Donc moi, je ne les développe pas en tant que telle maintenant. J'y ai participé il y a longtemps, quand j'étais en thèse, dans une vie antérieure. Mais par contre, je les confronte à mes données sur les cernes des arbres ou sur les glaces polaires. Et quand on regarde les grands changements passés à l'échelle géologique, glaciaire interglaciaire, les instabilités rapides, le petit âge de glace même, hein, cet épisode froid des derniers siècles, si on impose au modèle de climat ce qu'on sait des forçages extérieurs, volcanisme, activité du soleil, orbite, CO2, le premier ordre, ils l'ont toujours. Toujours. C'est-à-dire, quand il y avait un épisode de Sahara vert et de mousson plus intense, ben, quand on met l'orbite de la Terre de la période, ben, on a un Sahara plus vert qu'aujourd'hui. Par contre, ce qui est troublant, c'est que si on regarde vraiment le détail, ils ont plutôt tendance à sous-estimer l'amplitude par rapport aux changements passés et la vitesse des changements. Donc si moi j'analysais un défaut de ces modèles-là, quand on les teste dans des contextes complètement différents de la période actuelle, hein, ils auraient plutôt tendance à sous-estimer l'ampleur des changements. J'ai aucun exemple, j'ai pourtant essayé de le trouver, hein, aucun exemple précis qui me montre que les modèles de climat, qui sont vraiment basés, enfin, il n'y a aucune observation directement dedans, pas du tout. Et j'ai aucun exemple où ils simulent un changement plus grand que celui qui a été observé. C'est frustrant et inquiétant.
L'heure avance. Peut-être prendre une. Non, pas de questions. Mais merci encore à madame. Ah, une dernière.
Avec les connaissances que vous avez, est-ce que vous auriez des conseils à nous transmettre en tant que citoyens et des conseils à transmettre aux dirigeants politiques qui dépendent en grande partie des citoyens d'ailleurs?
Alors, comme citoyen consommateur, j'aime bien cette expression-là, vous avez deux pouvoirs très forts. Vous avez votre carte de vote et vous avez votre carte de crédit, quelque part. Donc, on n'est pas totalement passif et dépendant de ce qui se passe ailleurs. On peut, je pense, agir. Par rapport aux politiques, je pense, moi, personnellement, mais c'est mon point de vue, que les chefs d'État, les responsables de collectivités locales devraient rendre public leur bilan carbone et être exemplaires. Par exemple, c'est mon sentiment personnel. Et puis ensuite, à l'échelle individuelle, j'ai quelques petits graphiques. Vous voulez que je les défile concrètement pour avoir des éléments un peu précis? Désolée. Voilà, transport. Donc ça, c'est les grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Donc là, on néglige votre consommation d'alimentation quand vous marchez ou que vous pédalez, mais c'est zéro, hein, à part le coût de production de votre vélo ou de vos chaussures, quoi. Qu'on considère que c'est zéro. Vous avez le tram, je ne sais pas s'il y a un tram, il n'y a pas de tram ici, hein. Donc vous avez le bus de ville ou l'autocar. Alors là, c'est en ville, donc il y a des arrêts et des redémarrages, ça consomme plus que sur route. Vous avez la moto par passager, vous avez la voiture sur route, l'avion qui est à peu près autant qu'une voiture sur route, et puis la voiture en ville, Bah, c'est pareil, ça consomme beaucoup une voiture en ville, hein, moteur froid, arrêt et démarrage fréquent. Vous voulez diviser par 4 vos émissions de gaz à effet de serre avec votre voiture en ville. Soit vous faites pression pour qu'on soutienne le développement de voitures électriques, par exemple, à condition que l'électricité soit la plus neutre possible en CO2, donc ce qui est compliqué. C'est compliqué, aujourd'hui on est en limite de production électrique en France, hein, on importe de l'électricité là, donc c'est pas simple, hein, c'est pas... Voilà. Et ensuite, ou alors vous vous mettez à 4 dans votre voiture. En gros. Alors la vapeur d'eau des centrales nucléaires ou de tous les refroidissements de toutes les centrales thermiques, parce qu'elles aussi sont refroidies, elle va effectivement dans l'atmosphère, mais ce qui contrôle ce qui reste dans l'atmosphère, c'est la température de l'air. C'est-à-dire, si l'air, la capacité de contenir de la vapeur d'eau de l'air dépend de sa température, si vous rajoutez avec l'irrigation ou avec les refroidissements de centrales plus de vapeur d'eau que l'air ne peut en contenir, elle condense et il pleut tout de suite. Donc ça n'a pas d'effet, en fait. Alors ensuite, le chauffage des logements. Alors vous vous chauffez au bois de la forêt voisine de chez vous, de votre parc voisin, c'est neutre, à condition que ce soit pas trop, qu'il n'y ait pas trop de transport entre le producteur et vous, et qu'on reboise derrière ce qu'on a coupé. Alors c'est intéressant de voir ça sur l'électricité, c'est un logement moyen en fait, hein. L'électricité française, alors en fait c'est pas si neutre que ça, donc même si on a de l'hydraulique et du nucléaire, pendant les pics de demande de chauffage, les pics de froid en hiver, il y a une demande de surplus d'électricité. Les centrales nucléaires, elles ne peuvent pas moduler rapidement. Donc on allume des centrales à gaz ou à charbon. Donc il y a un poids qui est loin d'être négligeable et qui va peser à mesure de l'augmentation de la demande d'électricité puisque notre parc nucléaire est aujourd'hui un peu à saturation. Vous avez le gaz naturel, le fioul. Et pour donner un exemple, l'électricité en Grande-Bretagne qui est faite avec du gaz et puis encore un peu de charbon. Hein, donc vous voyez les différences en termes de chauffage. Donc vous voulez réduire votre poids en termes de gaz à effet de serre sur votre logement. On dit souvent ce serait bien de mettre des panneaux solaires, etc. C'est vrai que c'est bien. Mais le premier point, c'est d'isoler le logement et les fenêtres et le toit. Hein, ça, c'est la clé. Et puis deuxièmement, éviter le fioul. Et sur le gaz, passer aux systèmes à condensation qui sont bien plus efficaces. Vous pouvez gagner de l'ordre de 30% de consommation sur les chaudières... Ça dépend des modèles, mais jusqu'à 30%. Ensuite, ouais. Tout à fait. C'est pour ça que je reste très prudente sur ce thème-là. Je pars de fait. Je suis salariée du commissariat à l'énergie atomique. Je travaille sur le climat. Je n'ai pas été acteur des choix énergétiques des années 60. Donc je me contente de décrire les faits. Voilà. Ensuite, sur la production électrique d'ailleurs, hein, l'hydraulique, l'éolien, 5 g de CO2 par kWh produit, le nucléaire français avec la construction des centrales, mais pas tout le coût complet de démantèlement et de stockage de déchets en termes de CO2, c'est de l'ordre de 6 g au kWh, donc c'est assez proche. Le bois, idem. Donc là, c'est les filières biomasse et résidus de biomasse pour la production électrique, donc c'est quelque chose qui peut être relativement neutre. Et vous avez ensuite la production d'électricité avec le gaz, le charbon, la moyenne française et la moyenne européenne. Vous voyez des différences qui sont significatives. Ça, c'est la consommation électrique. Ensuite, vous avez le transport de marchandises. Si c'est transporté par... Donc c'est en kilomètres, en grammes de CO2 par kilomètre et par tonne. Si c'est transporté par bateau, par train, par rail-route, par poids lourd 20 tonnes, par utilitaire léger 3 tonnes ou le summum, l'ananas par avion, le transport par avion. Et vous voyez que dans ce que vous achetez en kilos de marchandises, hein, c'est, vous avez un poids qui peut être du même ordre de grandeur de CO2, hein, 1000 kilos de CO2 par tonne de marchandises transportées. Hein, donc c'est quelque chose qui peut être 1000 grammes pardon, de CO2 par kilomètre parcouru et par tonne, donc quelque chose qui peut être tout à fait considérable. Donc consommer local. Je pense que c'est le point important. Ce qui n'est pas toujours facile. Et puis sur l'alimentation, ça ce sont les grammes de CO2 par kilo de nourriture. Les fruits et légumes de proximité, le pain, le lait, les yaourts, les œufs, le poulet, le poisson local. Il n'y a pas trop de CO2 caché dans ce qu'on mange. Dans la viande, et en particulier des ruminants, à cause de la production de méthane, il y a un poids en CO2 qui est complètement caché mais qui est important. Voilà, donc en fait, comment on se transporte, ce qu'on achète, où c'est fabriqué, comment on se nourrit, bah tout ça en fait masque des points importants sur le CO2. Et quand on regarde un petit peu l'évolution de la consommation énergétique française, elle a été multipliée par 4 depuis les années 60. Quand on dit à horizon 2050, divisé par 4 les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas revenir à l'âge de pierre, c'est aller vers du triple vitrage, c'est aller vers de l'efficacité énergétique, des nouveaux systèmes de production d'énergie renouvelable. Et puis je pense aussi une forme de sobriété. Le transport par camion, par avion, des choses qui viennent de l'autre côté de la Terre, c'est plus faisable, je crois. Et pour l'emploi, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et pour la vie sociale non plus, je pense.
Et l'augmentation de la population.
Alors, on est 6,8 milliards aujourd'hui, on sera 9 milliards demain. 9 milliards de personnes qui vivent comme un Indien aujourd'hui avec une tonne de CO2, ça passe. 9 milliards d'Européens, ça passe pas. Donc il y a la démographie, et quand on en parle, c'est souvent, on entre souvent sur une dimension un peu éthique qui est compliquée à gérer. Aujourd'hui, la démographie, dès qu'un pays arrive un peu à avoir une forme un peu stable, économique, dès qu'il y a un peu d'éducation des femmes, la natalité chute. C'est le cas dans les pays du Maghreb, en Maroc, en Tunisie, c'est le cas en Iran aussi, par exemple. Donc dès qu'on arrive à assurer un peu une stabilité économique et puis une éducation aux femmes, la natalité chute. La question étant la suivante, quand on est moins dans une famille, en général, on consomme plus. On a plus de ressources pour consommer. Donc c'est la démographie en tant que telle n'est pas que le problème, c'est un mélange entre la démographie et le mode de vie, je pense. Il y a eu une réflexion aux États-Unis, par exemple. Il y a eu une réflexion aux États-Unis en disant qu'il y a une immigration importante vers les États-Unis. Donc ce sont essentiellement des gens qui quittent des pays d'Amérique du Sud, qui sont peu gourmands en énergie dans leur mode de vie normal, qui s'installent aux États-Unis, qui ont une période de vache maigre, puis après qui deviennent des Américains lambda, et dont l'empreinte écologique explose, finalement. Donc l'immigration vers les pays développés, c'est aussi quelque chose qui, quelque part, augmente l'impact à l'échelle de l'individu des émissions de gaz à effet de serre. Je pense que c'est un point qui est important. Voilà. Mais je pense qu'il faut rester optimiste.
Sur le site de l'ADEME, vous pouvez faire votre bilan carbone personnel.